Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans l'épisode numéro 193. Alors je vous rappelle toujours, je vous donne le numéro de l'épisode pour retrouver notes de l'émission sur le site. Et aujourd'hui, pas d'épisode qui dure 7 minutes. En fait, c'est un épisode qui n'a pas de durée prédéfinie parce que j'ai un invité. Vous savez, j'ai décidé de laisser le temps aux invités de parler autant qu'ils le veulent. Alors en plus, il m'a dit qu'il n'avait pas de limite horaire, donc on verra bien ce qu'il en est. Aujourd'hui, mon invité est un podcasteur qui m'a donné envie de faire du podcast parce que je l'ai d'abord écouté avant de pouvoir échanger avec lui, avant de pouvoir l'inviter dans cette émission. Et donc, je dis bonjour à Guillaume Vendée.
Salut
bonjour,
Guillaume. Bertrand, salut, salut, merci beaucoup pour l'invitation.
Comment vas-tu?
Écoute, je suis en pleine forme. Je suis ravi de faire un petit peu partie, d'une certaine manière, de faire un petit peu partie de cet édifice, à ma manière, de représenter une petite pierre là-dedans, parce que ça représente pas mal de choses pour moi, votre coach web finalement. On en reparlera peut-être un petit peu derrière, mais ouais, je suis très content de faire partie des invités de ce podcast, en tout cas.
Ouais, alors tu parles de votre coach web comme si c'était un monument, tu vois, mais bon, ça fait, il a même pas un an le podcast, même si ça fait 193 épisodes, c'est le gros avantage de faire du quotidien, c'est que finalement, les numéros, ça grimpe à une vitesse redoutable. Je t'ai invité aujourd'hui pour parler podcasting, etc. Alors je précise tout de suite, parce que j'ai aussi invité ton acolyte de Relife, alias Matt, prof du web, à parler, mais plutôt de la partie technique. Avec lui, on parlera un petit peu de micro, de son, d'enregistrement, etc. Et c'est aussi lié par rapport au projet que vous avez lancé de l'école du podcast. Donc tout cela fera une espèce de double épisode. Seulement, on n'a pas encore programmé la date d'enregistrement. Donc voilà, tenez-vous au courant, je vous préviendrai de toute façon. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de parler un petit peu de comment on se lance dans le podcast, comment on peut s'organiser, parce que Guillaume, tu fais quelque chose qui est redoutable pour moi, c'est de l'actualité, donc avec une qui nécessite une veille. Et puis un deuxième truc qui est redoutable pour moi aussi, c'est qu'en fait, tu fais des podcasts à plusieurs, avec des invités. Et donc, ça m'intéresse énormément sur le plan de l'organisation, de comment on trouve des invités, comment on lance un podcast à plusieurs, etc. Donc, on va essayer de balayer un petit peu ces sujets. Alors d'abord, pour commencer, je sais pas si on a vraiment besoin de te présenter, mais quand même, dis-nous quelques mots sur toi.
Bah, disons, tu dis que votre coach web présenté, comme je le disais, donnait l'impression d'être un monument. Ça donne l'impression que je suis aussi un monument. Alors, bon, écoute, moi, donc, je suis, bon, vous l'avez compris, Guillaume. Je fais des podcasts depuis pas mal d'années maintenant. À chaque fois, je peine un petit peu parce que j'ai une mémoire catastrophique au niveau des dates, mais ça fait de longues années maintenant. Maintenant que je fais du podcast, j'ai une vie de salarié à part entière au quotidien et je mène malgré tout cette activité en plus en parallèle au quotidien effectivement. Donc j'anime un podcast qui s'appelle Tech Café, qui parle, comme son nom probablement l'indique, de café, non, de tech. Et puis j'anime aussi, comme tu le glissais en intro, Relife, qui est un podcast sur l'amélioration du quotidien, qui est une émission mensuelle que je fais avec Matt, donc que tu auras dans un prochain épisode. De fait, tu sais, c'est vraiment d'ailleurs mon petit chouchou Relife, si je pouvais être présenté que comme étant un des membres de l'équipe de Relife, qui est un podcast sur le développement personnel et l'amélioration du quotidien. Je crois que j'en serais encore plus ravi, mais je reviendrai peut-être là-dessus après. Et puis voilà, je suis un peu touche à tout, geek dans une certaine mesure. J'anime un blog, j'ai animé longtemps un podcast personnel, un streetcast comme on dit, que là d'ailleurs j'ai repris un petit peu. Voilà, j'ai moult activités en ligne, plusieurs petites passions. Je suis un peu multicasquette et je suis un petit peu touche à tout sans être véritablement un expert sur grand chose.
Et tout ça avec le grand sourire. Alors parce que moi, il y a un élément que je ferai des épisodes sur la marque personnelle et quel est la véritable élément de marque personnelle dans la semaine. Hein, voilà, je le dis très, très clairement. Et en fait, il y a un élément qui pour moi te caractérise, c'est ton sourire et ta bonne humeur dans les épisodes, mais même sur Twitter, là. Tu t'énerves des fois sur Twitter ou pas? J'en sais rien.
Alors effectivement, ouais, non, je me suis énervé ce matin sur Twitter parce que je réagissais à un article qui est sorti sur Frandroid, et puis on est le lendemain de la présentation d'Apple, qui est un truc que je suis, une conférence annuelle pour les développeurs, donc la WWDC, et je revoyais cet article pointer le bout de son nez, qui était Android et iOS, Android P, iOS 12, qui copie qui. Et je me suis dit, ah, ça commence à être être vraiment énervant, je l'ai pris un petit peu à cœur et j'ai déroulé l'article. Et de fait, l'article n'est pas du tout dans l'orientation de ce titre, mais le titre m'a énervé parce qu'il a un peu biaisé ma lecture. Alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs un sujet qu'on pourrait aborder, que tu pourrais aborder dans votre coach web ou sur lequel on pourrait creuser, mais il y a, je trouve, énormément d'articles qui sont hyper intéressants sur le fond et très bien travaillés, avec des argumentations, avec des regards objectifs, sans être incriminant, mais simplement le titre qui doit amener le lecteur à aller se plonger dedans et qui en fait est tellement efficace pour amener les gens à lire l'article qu'il est complètement biaisé et qu'il est carrément agressif, je trouve. Donc voilà, je m'énervais par rapport à ça, mais je dois reconnaître que de manière générale au quotidien, je suis plutôt de bonne humeur. Je pense que je fais partie de ces collègues assez sympas qui sont pas très envahissants, toujours avec le sourire. Comme tu le dis si bien, je reprends maintenant l'expression à titre perso, on a tous notre tartine de merde, et je considère de mon côté que j'ai pas à la faire subir aux autres. Donc voilà, j'arrive à prendre assez facilement du recul entre ma vie perso, ma vie pro, les ennuis, les projets qui peuvent nous impacter directement. Donc ouais, je pense que de manière générale, je suis assez enthousiaste et assez souriant naturellement.
Ouais, alors j'avais eu ta discussion ce matin en plus avec Ulrich, et j'ai rigolé parce que j'ai remarqué quand même que chez Numérama, ils ont une... l'ensemble désormais, ils ont dû faire un truc sur la génération de trafic, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de titres clickbait. Et un jour, j'arrête de m'énerver avec eux, mais un jour, je l'avais fait remarquer quand même que c'était dommage. Parce que c'est vraiment leur présentation sur les réseaux sociaux, donc c'est vraiment du clickbait hein, pur et dur, donc vraiment d'attirer les gens. Et en fait, biaise totalement, et notamment parce que sur Twitter, il y a des gens qui vont relayer mais sans lire les trucs. Ouais. Et donc, en fait, on arrive sur des contenus. Certes, ça marche très bien, mais en fait, c'est vrai qu'on est orienté. Et puis bon, après, moi, pourquoi je m'énerve pas? Parce que c'est de bonne guerre que les fans d'Android soient fans d'Android. Et c'est pas après avoir invité Thibaut la dernière fois avec son fan d'Apple, etc., que on va taper dessus. Hein. C'est-à-dire que pour moi, autant le dire, les fans d'Android doivent être des vrais fans d'Android et les fans d'Apple des vrais fans d'Apple. Et j'aime la confrontation des deux mondes, des deux idées, mais avec un peu beaucoup de mauvaise foi, quoi. Et voilà. Et je trouve que en plus eux, ils en ont. Hier, on a vu beaucoup de mauvaise foi des deux côtés, qui était assez marrant. Mais de là à s'énerver. En plus, c'est un énervement gentil.
Oui, ah oui, c'était en tout bien, tout honneur. Et puis j'ai en plus rajouté des messages privés qui étaient, je pense, assez sympas parce que c'est vraiment le fond de ma réflexion. Et encore une fois, tu vois, dans cette histoire, ce qui m'embête, c'est pas tant qu'il puisse y avoir une espèce de guéguerre, parce qu'à la limite, je pense que c'est sain, et dans l'article, c'est sainement déroulé, mais encore une fois, dans cette espèce de titre, il y a quelque chose de très biaisé qui vise à dire que, en gros, il y a deux industries qui se copient l'une l'autre, alors qu'elles font des annonces à quelques semaines d'écart. Je pense que les développements d'une entreprise et de l'autre se font à l'échelle d'années et pas de quelques jours, donc c'est complètement biaisé, mais cet aspect de titre et d'article est un truc qui m'intéresse particulièrement en ce moment, parce que je trouve, en fait, je crois qu'il y a un espèce de secret de polichinelle. Moi, je dois partager souvent des articles sans les avoir bien lus et simplement avec le titre. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui le font et je sais pas si c'est... Alors, je pense qu'objectivement, c'est pas bien, mais on est tous dans cette situation à un jour partager du contenu parce que le titre nous a parlé. Et aujourd'hui, à l'heure de l'information dans laquelle on est, j'arrive à me demander si on n'a pas encore plus besoin de faire attention au titre qu'au contenu de l'article. À la limite, un article pas intéressant, mais un titre qui te fait réfléchir, je trouverais ça... c'est un peu réducteur, mais je trouverais ça tout aussi intéressant. Donc on néglige peut-être principe, un peu le titre.
C'est le principe du clickbait en fait.
Ouais.
Et le clickbait, c'était un piège. Hein. Alors sur Facebook, on l'a combattu beaucoup avec vous ne devinerez jamais ce qu'il y a derrière la porte de cette maison. Vous ne devinerez jamais sur quel côté de la tartine va tomber. Enfin toutes ces conneries là. Sauf qu'en fait, c'est ce qui marche.
Ouais.
Et Facebook les a quand même bien bannis. Hein. Faut être honnête. Ils ont c'est facile pour eux de détecter un petit peu la forme. Et puis voilà, ils savent que c'est un peu des pièges. Par contre, il y a des gens qui se font avoir, parce que si derrière, moi je te fais un article, voilà les trois raisons de choisir de passer sur Android après, sur iPhone après iOS 12, et que tu partages ça sans lire et que je t'envoie sur une fille pas très habillée qui danse la polka, eh ben t'auras partagé une grosse merde.
C'est vrai.
Il y en a qui l'ont fait en fait, et c'est ça le pire, c'est que souvent on voit des trucs, on voit des pièges comme ça de cette manière-là, et on se rend compte que Bah là, c'est vrai que le titre est très important. Et pour aller dans ton sens, c'est une anecdote que je donne souvent, mais chez BuzzFeed, il y a une des règles de conduite. On demande aux journalistes de trouver 25 titres d'articles pour trouver le bon titre d'article. Parce que si t'arrives à en trouver 25, normalement tu dois pas en trouver plus de 25. Mais si t'en as un et t'en arrives à en trouver 3, 4 autres, forcément au bout d'un moment, ça va finir par s'améliorer et tu vas trouver le titre qui va amener les gens vraiment chez toi. Et chez BuzzFeed et chez Upworthy et beaucoup de sites américains, et je pense que les Melty et autres, sont extrêmement performants aussi dans cette notion de titre. À tel point d'ailleurs, moi je travaille avec des outils américains type Coskedle et compagnie qui ont des notations de titres en fonction des mots que tu utilises. Alors ça marche pas en français, hein. Tu peux mettre n'importe quoi, c'est toujours un note de 25 ou 22, mais ils ont des notations de titres avec les mots, tu vois, toutes les expressions, etc. Et on revient sur les notions de copywriting aussi qui sont assez intéressantes et où tout part du titre. Et donc je suis pas très étonné, et c'est là où je te disais, je pense que chez Numérama, Frandroid et compagnie, ils ont une nouvelle stratégie dans ce domaine-là, parce que je trouve que depuis quelques temps, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus important, et on voit souvent remonter ce type de choses.
Bon, après, c'est une entreprise, ils doivent vivre. J'imagine que quand tu essaies de trouver des financements et encore une fois de faire vivre des gens avec un salaire comme ils le font, tu es bien obligé de trouver les techniques qui fonctionnent financièrement. Mais ça m'embête de voir autant de travail consacré à un article de comparaison aussi soigneux et finalement je trouve de le massacrer avec un titre putaclic. Mais bon, enfin c'est un aspect déontologique, économique d'un média qui est assez compliqué, j'imagine.
Oui, non, mais t'inquiète pas, ça va se régulariser petit à petit, puis je pense que les gens, on en prend l'habitude de tout ça. Bref, j'avais une question, comment t'es venu au podcast en fait ?
Alors je suis venu au podcast parce que j'étais un très très grand fan de notre peut-être papa à tous dans les origines de Patrick Béja à l'époque où je jouais à World of Warcraft. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a des interviews de podcasteurs, il y a une fois sur deux au moins cette situation qui se décrit de la personne qui a découvert le podcast en France grâce à Patrick Béja parce qu'il jouait à World of Warcraft. Je pense que ça a été un vecteur incroyable, et il le dit d'ailleurs lui-même, hein, de notoriété pour le podcast en français. C'est comme ça que ça m'a attiré, et naïvement, je me rappelle d'ailleurs assez tôt avoir eu cette discussion avec lui puisque je l'avais interpellé par mail. Je voulais faire du podcast parce que ce qu'il fait me plaisait. J'y voyais un intérêt à vouloir suivre un petit peu les lignes qu'il avait tracées de son côté et m'ouvrir mon propre champ d'expression. Et il s'avère que j'ai une formation universitaire autour de l'informatique et je voulais parler d'informatique. À l'époque, on était dans le plein buzz des tablettes. On se disait tous, enfin moi en tout cas, je me disais naïvement que la tablette allait remplacer l'ordinateur, que le clavier c'était une espèce en voie de disparition et que demain on aurait tous une tablette à la main au quotidien. Et j'ai lancé donc Tablette Café, qui était un peu cet embryon de Tech Café, ce que c'est devenu aujourd'hui, où tout simplement j'ai parlé de tablettes pour plusieurs raisons, parce que encore une fois les tablettes ça me plaisait et parce que je voyais que c'était un segment qui était un peu plus spécialisé que la tech généraliste, tel que le faisait notamment Patrick. Et puis, j'avais commencé à identifier un média, et je pense que je vais peut-être commencer à anticiper la réponse à la prochaine question que tu comptais me poser sur les rencontres, notamment de personnes qui m'accompagnent dans les podcasts. C'est que j'ai contacté un site qui s'appelle tablettetactile.net, qui est un site qui a fonctionné hyper bien avec le SEO à l'époque où justement il y a eu le buzz des tablettes, et j'ai contacté le rédac chef en lui disant bah voilà, moi j'aimerais lancer un podcast et idéalement pour me faire connaître et qu'il soit plutôt écouté, j'aimerais le lancer en partenariat avec un certain nombre de sites pour que ce soit le podcast des sites et qu'il soit diffusé sur vos sites où il y a déjà une audience, que j'apporte quelque chose en plus. Et donc j'ai contacté tablettetactile.net, il y en avait d'autres, il y avait à l'époque iPad, je me rappelle de mémoire, c'était IPA2D.fr. Il y en avait plusieurs comme ça, et on a eu assez rapidement la possibilité justement aussi de faire rentrer dans la danse l'équipe de Frandroid, et notamment justement Ulrich, avec qui on a fait quelques épisodes aussi. Et c'est la manière dont je me suis plongé dans le podcast, c'est sous l'angle de la tech. Alors tablette tactile, ça a fonctionné qu'un temps, parce qu'effectivement je m'étais lourdement trompé sur la viabilité dans le futur des tablettes tactiles justement. Et puis on commençait à parler de plein d'autres choses que de tablettes, on commençait à parler évidemment de smartphones, d'ordinateurs, d'usage, donc notamment les applications, les réseaux sociaux, réseaux, tout ce qui peut nous impacter au quotidien. Et donc, bah, on est devenu de facto ce que je voulais pas forcément faire au départ, mais un podcast généraliste sur la tech finalement, et qui est devenu Tech Café et qui continue à perdurer aujourd'hui.
Bon, après, je sais pas si t'étais trompé ou si c'était juste en avance, en fait, sur l'histoire de la tablette qui allait remplacer l'ordinateur. Ouais. Parce que je pense que ta prédiction, elle est bonne. C'est juste de quelques années. Moi, je pense que tu peux la garder, là. Enfin, voilà, c'est pas le sujet du jour, mais je pense que tu peux garder la prédiction. Et quand on voit un petit peu les usages sur les iPad Pro, etc., je pense quand même qu'il y a des choses qui sont en train de bouger sur ce domaine-là. Même si Apple a dit que les deux OS restaient séparés, je pense quand même qu'on voit des trucs bouger qui deviennent intéressants. Et en tout cas, moi, je vois dans les usages, hein, peut-être pas pour travailler, mais dans la famille, je vois beaucoup de gens qui n'allument plus l'ordinateur et qui n'ont plus qu'une tablette, ou qui ont une tablette, un ordinateur, mais qui n'allument plus du tout l'ordinateur, parce que la tablette, elle est quand même tellement pratique pour faire plein de choses. Mmh. Et puis, avec les, puis il faut penser, moi, je pense beaucoup... Mais ça, c'est mon pendant, tu sais, j'ai fait un mémoire sur l'ergonomie des sites internet en 2000. Et à l'époque, j'avais une phrase qui m'avait marqué, c'est que quand tu fais quelque chose pour ceux qui ont le moins de capacité, hein, et j'avais vu ça notamment, moi, ce qui m'avait épaté, c'est que si tu fais un trottoir qui est adapté aux poussettes, tu fais un trottoir qui est adapté à ceux qui font du skate, qui ont des fauteuils roulants, qui font du patin à roulettes, et aux gamins et aux mamans, avec les gamins, avec les enfants, etc. Ce que je vérifie maintenant admirablement bien que je suis papa. Et je pense aussi que la tablette, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'écran, comme il est plus grand, etc., il est aussi adapté à des populations pour qui l'ordinateur, ben, c'était soit trop petit, soit pas facile, soit plein de choses comme ça, tu vois. Donc, garde quand même ton nom, tablette café, quelque part.
Ouais.
Et pour appeler ça tablette café, on a fini par avoir la peau de l'ordinateur et
le sous-titre est excellent. Ouais. Bah on va fêter bientôt la centième de Tech Café, va savoir si c'est pas un nom effectivement.
Donc c'est assez à creuser. Oui, alors tu le disais sur Tech Café, ça prend combien de temps de préparer, d'enregistrer, de diffuser un épisode?
Alors, j'ai essayé d'évaluer ça. Je me suis fait un petit peu un exercice de vrai entrepreneur à la rentrée en septembre, quand j'ai lancé ma nouvelle saison de podcast. J'avais essayé d'analyser un petit peu ça. J'avais fait le tour un petit peu de mes outils, du temps que ça me prenait. Moi, j'évalue grosso modo, mais c'est très compliqué d'arriver à identifier l'aspect veille, le temps que ça prend. Mais dans la semaine, si je compte l'aspect veille, préparation des émissions avec les comptes, enregistrement, montage, diffusion et animation derrière, j'estime ça être un peu moins d'une dizaine d'heures. Donc c'est très compliqué d'identifier, mais je sais qu'il y a au moins toute une soirée de la semaine où de 19h30 jusqu'à parfois minuit, un peu plus, je bosse sur la mise en ligne, en gros l'enregistrement, le montage et la diffusion de l'émission. Il y a des émissions qui nécessitent pas du tout de montage quand on est que deux et que on a l'habitude de faire des enregistrements ensemble avec Guillaume Poggiaspala, qui est un peu devenu mon compère principal maintenant de Tech Café, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Je sais que ça se passe hyper bien, sauf aléa technique, on enregistre, je fais un montage hyper sommaire avec le générique, je mets en ligne et puis j'anime un petit peu sur les différents canaux. Mais il y a des fois où une personne intervient et notamment, je vais le citer explicitement, comme ça on saura de qui je parle, mais Pierre-Olivier Diebmann au Québec et qui est quelqu'un que j'adore, qui est excellent, qui en plus a un angle, enfin une vision sur les sujets qu'on aborde qui est très complémentaire, je pense, avec en tout cas la mienne, et moi ça m'éveille beaucoup, mais de son côté, je sais pas, il cumule un peu tout ce qu'il faut pas faire au niveau du son. Il le dit d'ailleurs lui-même. Hein. La dernière fois, il a enregistré avec le décalage horaire de chez lui, donc il avait pris un petit peu de temps de chez lui et s'était dit tiens, je vais enregistrer l'émission dans mon jardin, je vais être bien. Et en fait, on entendait les oiseaux tout du long, donc ça m'a multiplié le temps de montage. J'adore le faire, surtout quand c'est pas systématique, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Et alors ça, c'est la partie la plus simple, j'allais dire, mais la partie la plus complexe maintenant au quotidien pour moi, c'est la partie veille que je fais, je dois dire, un peu tout le temps. C'est-à-dire que je vais être amené à voir ça, et c'est d'ailleurs quelque chose que je veux corriger, j'ai tendance à faire ça le matin, peu de temps après le réveil, à la grille pendant que mon fils est à côté, attend l'ouverture de la grille pour rentrer dans sa classe. C'est souvent à la pause du déjeuner, et tu peux pas savoir à quel point à chaque fois que tu mentionnes dans votre coach web le fait que le midi il y a cet espace, tu le disais encore dans les derniers épisodes là, il y a ce petit espace d'une demi-heure avec l'effet cumulé qui fait que quand on le fait tous les jours, on accomplit des grandes choses au final. Ben, moi, je le vérifie vraiment fortement. Et puis, voilà, tout au fil de la journée, je peux être amené à faire de la veille. Et il y a un truc qui est extrêmement positif pour moi dans ma situation aujourd'hui, que j'ai pu largement critiquer avant. Je me plaignais un petit peu de la difficulté que c'était pour moi d'avoir ces deux jobs, en gros, mon activité de salarié en entreprise, une vraie vie de bureau, et puis cette activité de mini-entrepreneur indépendant, sur lequel il y en a un qui... pendant un temps, m'épanouissait plus que l'autre, et après, ça a été inversement, enfin, ça fluctuait au niveau du temps. Et il s'avère que là, j'ai une chance assez incroyable, c'est que mon travail principal, salarié, et mon activité de podcasteur sont des activités qui se recoupent sur beaucoup de domaines, et la veille de l'un nourrit la veille de l'autre, et inversement. Et donc, je parviens comme ça à mutualiser du temps pour ces deux activités, et c'est pour moi une chance assez unique. Je pense qu'aujourd'hui, je serais, j'en sais rien, boulanger, financier, ou enseignant, ou sportif, j'aurais pas du tout la même possibilité de mutualiser les activités. Et ça, c'est une chance assez incroyable pour moi, en fait.
Oui, alors après c'est super bien de le faire. Et enfin le, est-ce que tu penses d'ailleurs que ton évolution professionnelle de salarié ou de imaginons non salarié, parce que certains prévoient la fin du salariat et t'es jeune encore, peut être impactée par ton activité de podcasteur?
Alors j'avais eu cette discussion avec Matt. Je sais plus si c'est pas un sujet qui avait été abordé dans ton podcast ou qu'on avait échangé ensemble. J'avoue que ma mémoire me fait défaut à ce niveau-là. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut pas résumer une personne, un collaborateur qu'on va recruter simplement avec ses diplômes et son expérience. Il y a évidemment le feeling, il y a évidemment la nature des échanges qu'on va avoir avec lui, il y a le fait qu'il fasse des fautes de français ou pas. Et puis, il y a ses activités à titre perso. Et je pense aujourd'hui que quand une personne comme moi se présente pour un job, comme je l'ai fait pour le job que j'ai actuellement, pour dire bah voilà, moi les missions que vous me demandez de faire, je pense que je suis à même de les remplir. Non seulement je peux le prétendre, mais je mettais carrément dans mon CV le fait que j'animais un podcast comme Tech Café, et ça laisse la possibilité à qui veut. Je pense pas que les mecs des RH le fassent, mais je pense par contre que les décisionnaires le font, d'aller écouter, quoi, et de se faire un avis, et de se dire, à la limite, je suis d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec lui, en tout cas, s'ils prennent position, c'est très bien, ça veut dire qu'ils m'ont écouté, et qu'ils savent que je suis à même d'en parler. Et aujourd'hui, je sais que dans la boîte dans laquelle je travaille, j'ai cette aisance pour présenter des choses auprès de grand public, dans des environnements où il y a beaucoup de monde, comme si j'étais en train d'animer un épisode de podcast, et ça m'a vachement aidé. Je pense que ça peut ouvrir des portes. Matt, de son côté, a pu changer d'environnement professionnel. Je sais intimement que son activité de podcasteur, là, il en parlera évidemment mieux que moi, mais aidé par rapport à ça pour prouver qui il était et dire ce qu'il savait faire. Et inversement, je pense que dans le cadre de mon boulot, qui est encore une fois un cadre d'une entreprise assez, par certains aspects, avec comment dire, il y a pas le dynamisme d'une start-up de deux personnes, même s'il y a d'autres formes de dynamisme, il y a pas ce dynamisme-là. Et ben je pense que d'avoir quelqu'un comme moi qui a cette activité en tant qu'indépendant en plus, ben ça apporte quelque chose, ça apporte un regard complémentaire, et on peut un petit peu mieux challenger, en tout cas challenger sur des terrains complémentaires ce que l'entreprise peut être amenée à faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai de mes managers directs. Il y en a un qui m'écoute, et je le salue s'il est en train d'écouter cet épisode. Je sais qu'il t'écoute aussi, d'ailleurs, dans sa voiture. Donc, je sais, si tu veux, qu'il y a des répercussions. Et inversement, là aussi, ce que je fais dans mon podcast, ce que je dis, je le mets parfois sous le prisme de ce que je vois dans l'entreprise. Et cette complémentarité, elle est très forte, encore une fois, et je pense que demain, le salariat tel qu'on le conçoit aujourd'hui n'aura plus lieu d'être, et ce sera probablement une foultitude de choses qui nous définiront plus que simplement un diplôme et une expérience, quoi.
Alors, j'avais écouté l'épisode où Matt en parlait justement du fait qu'il mettait l'activité de podcasteur sur le CV. Maintenant que t'en reparles, ça m'a fait tilt. Parce que effectivement, hein, de toute façon, bon après il y en a d'autres qui en ont parlé, etc. Mais le CV, Voilà, c'est une espèce de photo. Moi, j'ai le jour, c'était une discussion que j'ai eue avec mes élèves, parce qu'à force de croiser des élèves, et il y en a un qui devait refaire son CV, et il me dit, est-ce qu'il est bien mon CV? Et je lui dis, bah oui, mais bon, de toute façon, c'est le même que vos 25 camarades à côté, donc pour moi, je peux pas le juger. Enfin, il y a un moment donné, je peux pas le juger. Et c'est vrai que ce genre de compétences-là, et notamment, il y a une compétence qui est très intéressante, c'est que finalement, on peut savoir faire plein de boulot. Et j'ai souvent dit dans l'épisode, on peut savoir faire son métier, que c'est bien, mais je crois que ceux qui ont le plus à apporter, c'est ceux qui sont capables de l'expliquer aux autres, de former, d'apprendre des choses aux autres, de savoir expliquer ce qu'ils font aussi. Et l'exercice de podcast, l'exercice que vous faites dans toi et les autres, dans vos émissions, dans les podcasts, cet exercice de pédagogie est très important, et le fait de faire des podcasts, je pense, t'as entraîné à améliorer ta pédagogie pour arriver à expliquer des choses. Et puis, j'ai le souvenir avec comment il s'appelle, Guillaume Pogescala, j'arrive pas à le dire.
Ouais, il a un nom de famille compliqué aussi.
Avec ses histoires de castor pour expliquer des trucs super compliqués, est un exemple en plus. Mais c'est l'épisode où vous avez parlé des processeurs avec les castors et compagnie. Est un épisode que je devrais mettre en lien, tu sais, j'avais fait un épisode sur les métaphores.
Ah oui.
Et sur imager, et c'était un modèle du genre. Et c'est vrai que je pense que cette compétence-là qui se développe au fur et à mesure de faire des émissions, elle est aussi mesurée par ceux qui ont besoin de cette compétence-là pour finalement expliquer des trucs qui pour nous paraissent évidents. Mais ça nous paraît évident parce qu'on est capable de l'expliquer, c'est ce que j'avais dit dans un épisode, hein. Quand on est capable d'expliquer un truc bien et facilement à quelqu'un, c'est que on l'a intégré. Et en fait, on a plein de gens qui ont besoin de... Tu peux apprendre le métier de plein de boîtes, mais apprendre aux gens à apprendre quelque chose, c'est pas si facile que ça.
Ouais, c'est vrai que c'est très compliqué. Et cette vertu de l'enseignement, alors on va pas refaire l'épisode de Real Life, hein, qu'on avait fait ensemble et avec Matt, enfin tous les trois, il y a pas si longtemps que ça, où on parlait de l'apprentissage aussi, est devenu quelque chose d'assez clé pour moi. Et effectivement, tout ça se nourrit. Le fait même d'avoir donné des cours occasionnellement, j'ai pas pu le faire longtemps. J'aimerais bien le refaire auprès de seniors pour leur expliquer un petit peu les usages numériques. J'ai eu l'occasion de faire ça à plusieurs reprises, et ça m'a beaucoup appris, parce que là encore, quand tu te confrontes directement, comme toi tu dois le vivre et comme les personnes qui sont habituées à faire de l'enseignement presque au quotidien le savent très bien, c'est que on est amené à apporter une info, et en même temps tu peux la prévoir de mille manières possibles, tu peux l'avoir bossé comme un zinzin, il s'avère qu'il y a toujours le personnage en face de toi qui est ni sachant, ni pas sachant, ni intelligent, pas intelligent, la question n'est pas là, mais il va remettre en question ce que tu dis, pas pour t'en contredire, mais simplement parce qu'il a besoin de comprendre un aspect que t'as pas forcément creusé ou que t'as pas totalement bien expliqué. Et c'est aussi ça le podcast, et c'est aussi ça l'interaction dans le cadre d'une vie professionnelle, et notamment dans le cadre de l'enseignement, je pense, c'est d'arriver à remettre en question ce qu'on dit pour arriver à s'adapter à ces situations qu'on ne pourra jamais prévoir, de personnes qui ont besoin de comprendre les choses différemment, et parfois même ils nous apprennent des choses, puisque quand quelqu'un à qui on transmet une info nous dit je sais pas, je trouve pas ça logique, regarde, si on compare tel sujet à tel sujet, ça n'a pas de sens, et en fait parfois il se trompe, mais parfois il a raison, et parfois ça nous fait remettre en question la façon dont on a appréhendé les choses et dont on pensait savoir qu'elles fonctionnaient. Donc tout ça se nourrit évidemment beaucoup, et je pense que là encore ça remonte à peut-être tes premiers épisodes de votre coach web, où tu disais on a tous quelque chose à raconter, on est tous multifacettes, on a tous plein de choses à apporter dans la production de contenu, mais aussi dans notre activité au quotidien, et tout ça se nourrit très intelligemment. Ça en fait quelque chose de très compliqué pour décrire quelqu'un, mais c'est évidemment très intéressant de voir les profils de cette manière-là, je pense.
Oui, tout à fait. Alors, on pourrait en parler très longtemps, mais c'est vrai qu'on avait parlé d'Henry Life, et c'est un sujet vaste. D'ailleurs, tu sais, moi, j'écris mon e-book en ce moment, et c'est l'un des sujets que j'ai écrit là dans ces derniers jours, et qui va me servir pour faire les épisodes qui viennent. Même dans la semaine, voilà, j'ai un épisode sur créer le contenu que vous aimeriez lire, et en fait, retombe exactement sur cette notion-là, et en fait, recoupe aussi ce que t'as voulu, comment t'as lancé ton podcast finalement, parce que tu cherchais finalement à creuser le domaine des tablettes, et au lieu de le creuser en le lisant, t'as fini par le creuser en, en étant acteur de ce qui se faisait, en le décrivant, en l'expliquant, en l'explorant. Et c'est exactement en fait ma philosophie du contenu, des créateurs de contenu, et disant qu'on peut aller sur n'importe quel domaine, du moment qu'on a une... Alors je pense par contre une vraie passion, quoi, parce que si la tech, je pense que tu dois être un passionné complet, quoi.
Bah, surtout... surtout à l'heure, à l'époque dans laquelle on vit, et ça me pose vraiment de plus en plus de problèmes, je dois dire, et parfois ça aurait tendance à remettre un peu en question le fait que je m'investisse autant dans Tech Café, c'est que c'est devenu un thème qui a à la fois des bouleversements de dingue sur notre vie de demain. Pour ceux qui ont besoin de s'en persuader, regardez Black Mirror, qui est une série disponible notamment sur Netflix, qui parle des bouleversements notamment de la technologie qui peuvent avoir des impacts très forts sur notre société demain, une espèce de série d'anticipation comme ça qui est très intéressante, je trouve. Et donc la tech a ces enjeux-là. Ça a des enjeux pas que parce que on peut avoir le dernier animoji sur notre smartphone ou faire des photos de plus belle qualité, mais simplement parce que le fonctionnement des réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir sur notre vie de famille, notre vie en société est assez folle. D'ailleurs, je trouve très marquante, pour avoir une petite parenthèse technophile, l'impact que peut avoir, la vision que peut avoir notamment Google avec Android et Apple avec iOS, de faire des OS qui n'en proposent pas plus, mais qui essayent d'en proposer moins, en disant qu'on arrive à te limiter l'accès aux notifications, qu'on arrive à te préserver ou à te donner la possibilité de te préserver des plages de vie personnelle, ce qui pour moi est probablement l'indicateur le plus marquant de l'évolution de la technologie de ces dernières années, c'est que on a des acteurs de l'industrie qui nous proposent de régler pour consommer moins la technologie. Je pense que c'est presque sans précédent un tel impact sur des appareils qu'on utilise autant au quotidien. Pour moi, c'est un marqueur fort. Et cette veille que je fais, ces heures que je passe chaque semaine, ça commence à me poser un furieux problème parce que c'est du contenu qui est pas evergreen du tout, quoi. J'en ai déjà parlé avec plusieurs personnes et moi, ça m'embête de me dire que ces 10 heures par semaine sont consacrées à la fois sur des enjeux tellement fort sur l'aspect sociétal et quelqu'un qui aujourd'hui ne suit pas la tech, à mon avis, passe à côté de quelque chose. Et je parle pas des puissances de processeurs ou des dernières fonctionnalités de messagerie, mais encore une fois, de ces conséquences qu'il peut y avoir pour une société, on passe à côté de quelque chose. Et en même temps, 90% de ce qu'on dit chaque semaine sur la tech, on peut le zapper, revenir 15 jours après, et ça nous changera pas fondamentalement notre vie. Et donc, moi, je travaille à apporter du contenu qui a une valeur très courte, par rapport à ça, qui est très périssable et qui a une plus-value tout à fait relative. Elle peut avoir encore une fois cette plus-value très forte sur certaines prises de conscience de société et en même temps ne servir à rien finalement. Donc ça me fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup réfléchir. Je suis certain qu'il y a des conséquences très fortes à cette réflexion qui vont arriver dans les mois à venir dans ce que je fais. Je sais pas quelle est la proportion, j'en ai aucune idée. Est-ce que Tech Café va s'arrêter? J'en sais rien. Est-ce qu'il va être revu? Est-ce qu'il va y avoir des épisodes plus de fond sur les usages qui seraient très complémentaires à l'actualité? J'en sais rien. Mais pour moi, ça me pose vraiment un gros problème, quoi. Et donc, je soulève des questions en ce moment et je suis disponible pour en discuter avec n'importe qui si vous avez des embryons de réponse à ce sujet, évidemment.
Mais c'est tout à fait logique en plus. Et moi, tu sais, quand j'ai commencé ma série d'épisodes POC sur l'actu des réseaux sociaux, c'est le premier problème, en fait. C'est-à-dire que le premier jour, je prends ma truc, je dis... Ouais, mais ça, en fait, on en a rien à faire, quoi. Enfin, moi, le lancement d'un nouveau filtre sur Instagram, etc., c'est pas ce qui m'intéressait. Et c'est pour ça que j'avais fait un épisode sur les stories. Mais en fait, sur l'impact long terme de la story, tu vois. Enfin, c'est un épisode, tu l'écoutes maintenant. Je pense qu'il est encore valable parce que ça parle de la story, du replacement de la story sur un contexte de communication, tu vois. Et même quand je parle d'Instagram aujourd'hui, la story, elle est encore en fond. Parce qu'elle, bouge profondément notre manière de consommer. Mais c'est vrai que, alors moi, je vais pas t'empêcher de faire ton émission de tech, hein, mais parce que moi, enfin, honnêtement, hein, franchement, si toi et Patrick vous faisiez pas vos émissions, je serais très emmerdé, je serais obligé de faire de la veille, de faire beaucoup plus de veille, bah voilà quoi. Alors que, et je le dis très clairement, moi, je demande à mes étudiants de faire de la veille. J'ai des étudiants le mercredi en cours, une partie de l'année à Vichy. Et je les note sur leur capacité à faire de la veille. Et je leur demande d'arriver chaque matin avec, tous les mercredis matin ou après-midi, avec un article de news en disant, bah tiens, qu'est-ce que vous avez vu dans l'actu? Alors, il y en a qui cherchent rien, il y en a qui cherchent l'actu du jeu vidéo, etc. Et moi, j'arrive toujours avec une liste qui est longue. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte la plupart du temps, c'est que j'ai juste écouté l'un de vos podcasts dans le train et en accéléré en plus des fois où je regarde les titres et je dis ah tiens, ça m'intéresse, ça va pas t'intéresser, ça j'en ai rien à faire ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est aussi pour ça que je participe alors à vos Patreon, Tipeee ou et autres. C'est parce que mais c'est comme Jérôme Kainborg sur le matin, hein, sur même si j'ai pas trop le temps de regarder, hein, j'avoue, Naotech. Le matin, mais c'est que pour moi en fait vous faites un boulot qui est un peu moi je trouve ça pénible, hein, je t'avoue, hein, voilà, de repartager ça, etc., parce qu'on se rend pas compte mais c'est chronophage. Et on en parlait aussi l'autre jour avec Thibaut, hein, c'est chronophage de faire tout ça en actu, et mais qui rend un service incroyable. Mais par contre, je comprends ton questionnement, parce que moi-même, c'est des réflexions que j'ai eues sur certains de mes contenus et où j'ai arrêté totalement le périssable, à tel point d'ailleurs que, alors ça va peut-être pas te rassurer sur l'avenir de ce que tu fais, mais sur Cyberbounia, qui est mon site d'actu Clermontois, ça a carrément coupé le site, tu vois. Enfin, ça fait le dernier article que j'ai fait, c'était vraiment un article d'actu, mais c'était juste pour dire qu'on est deux champions olympiques, non, vice-champions olympiques. Donc c'était trop important, tu vois, pour pas le dire. C'est comme si notre club de rugby avait été champion de France, j'aurais été obligé de faire un article dessus, parce que ça, voilà, c'est inévitable. Mais c'est vrai que cette réflexion-là de me dire, oh, à une époque, tu vois, je faisais un article toutes les semaines sur les résultats du foot, sur des choses comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais laisse faire les autres, quoi. Enfin, tu vois. Mais bon, ouais, si tout le monde se dit ça, au bout d'un moment, je serai emmerdé. Donc non, ne m'écoute pas. Continue. Moi, j'ai besoin de vous. Bon, non, mais de toute façon, Patrick, il continuera dans tous les cas, j'imagine.
Je pense. C'est même certain. Mais j'arrive à me demander s'il n'y a pas un facteur qui joue beaucoup là-dedans. J'essaye de faire une pseudo-analyse de ce sujet-là à la volée, mais je me demande s'il n'y a pas aussi une notion d'âge ou de situation familiale qui joue là-dedans, parce que quand je regarde autour de moi, j'ai 36 ans, donc je suis ni jeune ni vieux, enfin classez-moi comme vous voulez à la limite, mais je suis comme tout le monde d'ailleurs plus vieux que d'autres et plus jeune que les autres. Mais j'ai le sentiment que les personnes qui sont plus jeunes que moi, sans en faire une caricature évidemment, puisqu'il y a plein d'exceptions à ça, sont plus intéressées sur justement cette actu chaude, les résultats sportifs, l'actualité autour d'eux, que ce soit l'actualité des sorties, concerts, bars, etc. Et j'ai l'impression que les personnes qui sont un peu plus âgées que moi ont tendance à s'intéresser à des contenus culturellement parlant plus périssables. Ça se voit même au niveau de l'intérêt sur les films. C'est-à-dire que je vais voir énormément de personnes plus jeunes que moi qui sont très blockbusters et des personnes plus âgées que moi qui sont, j'ai l'impression, majoritairement plus intéressées par des contenus audiovisuels de fond et de réflexion. Alors, et je crois pas d'ailleurs qu'il y ait un contenu qui soit mieux que l'autre ou qui soit plus intelligent que l'autre. Vraiment, je pense pas. Mais je pense que par rapport à l'âge qu'on a et par rapport à la situation qu'on a, notamment si on est parents, on s'intéresse à des choses différentes. Je suis très marqué de voir que on a construit Re Life, enfin Nip Life à l'époque, alors que j'attendais mon premier enfant en fait, alors que on était à quelques mois de la naissance de mon fils aîné. Ça a été un déclencheur de dingue pour moi et je me suis posé la question effectivement de comment investir du temps sur des choses qui sont plus durables. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui se déclenche. Alors je sais pas si toi qui es jeune papa perçois ça à ton niveau, mais j'ai l'impression, c'est une réflexion qui court dans mon cerveau depuis quelques temps, qui tend à se vérifier. Alors il y a peut-être un biais de confirmation, hein, mais à chaque fois j'arrive à trouver l'explication qui va bien pour illustrer cette réflexion.
Ouais, alors moi c'est pas trop la paternité parce que j'avais anticipé les choses. Moi j'étais victime de harcèlement psychologique au boulot en fait. Donc il y a au bout d'un moment j'ai été arrêté 5 mois quand même. Hein. Donc un jour mon médecin m'a dit vous ne retournerez jamais travailler dans cette collectivité locale qui s'appelle un conseil régional. Et j'en ai gardé un truc, mais les politiques, enfin quand je les ai en interview pour Cyberbounia, ils me disent mais pourquoi vous nous posez des questions comme ça, vous nous emmerdez. Je dis mais c'est fou. Si vous pouviez imaginer le truc. Comme ça, quand je vous trouve, faible sur des trucs, des fois, quand vous avez ça sous vos yeux, je dis, j'ai envie de vous poser, mais j'étais encore trop gentil dans ce que je vous ai posé comme question. Et donc, comme ça, les énerve, j'ai plus les voir maintenant, parce qu'ils veulent plus me répondre, des fois, certains, etc. Ouais, je me suis fait bannir, par exemple, d'un conseil départemental, mais bon, c'est comme ça. Et, moi, ça m'avait amené une réflexion. Mais j'en parle aussi dans le bouquin, donc je peux le dire très clairement. Pour m'en remettre, j'étais voir un psy, en fait, on parlait d'un truc, mais en fait, je le voyais tous les mois, on parlait que des bouquins que je lisais. Et je parlais de psychologie positive, je lui ai conseillé, il a acheté la semaine de 4 heures, grâce à moi, en fait. Et il m'a dit, en plus, c'est un mec qui doit avoir 8 heures de consultation par jour, il avait une clinique à côté et tout, quoi. Je sais pas quel âge il avait, tu vois, peut-être 45 et tout. Il me dit, je pense pas que ce soit possible de faire une semaine de 4 heures, mais il me dit, le conseil m'intéresse. Je dis oui, mais je dis, vous lirez qu'en fait, c'est pas le conseil de faire une semaine de 4 heures, qu'il y a autre chose derrière, il y a d'autres réflexions. Je dis, mais lisez-le deux fois. Une fois, vous comprendrez peut-être un certain truc, mais la deuxième fois, vous comprendrez vraiment les choses, vraiment plus, etc. Et donc, on lui partageait plein de bouquins comme ça. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que quand on a des trucs qui chamboulent nos vies à ce point-là, que ce soit la paternité, les changements de... Moi, ça m'a cassé mes espoirs, en fait, tu vois, cette histoire de truc, quoi. C'était de dire, t'as beau faire tout ce que tu veux, quand t'as un gars qui a décidé que ça allait pas comme tu veux, voilà. Moi, je m'étais dit, maintenant, et j'ai une citation dans mon bureau qui est sur l'indépendance, tu vois, alors c'est très con. Sur mon blog de mec, un jour, moi, j'ai participé à une campagne pour une marque de bière sans alcool. Non, avec alcool, je sais plus. Ah, bah, tu vois, j'ai l'affiche. Et on m'a demandé une citation, et j'ai dit qu'en fait, moi, depuis, j'avais décidé que je voulais être indépendant dans une partie de ma vie, et notamment par rapport à tous ces trucs-là, et que c'était que l'indépendance, c'était d'avoir le courage de prendre des décisions et de changer les choses par soi-même. Tu vois? Et en fait, moi, ça date de ça. C'est-à-dire que la réflexion sur tout un tas de sujets que vous abordez dans Real Life, etc., et donc aussi sur... le fait de faire des choses qui soient plus durables, mais en ce moment je suis sur le minimalisme aussi, tu vois, donc des choses comme ça vient aussi de ça, c'est-à-dire de dire bah il y a des choses que je peux décider, je vais le faire par moi-même, etc. Et puis lancer le podcast par exemple, c'était ma décision, c'est une décision de très long terme en fait, hein. C'est 1 an, mais c'est un projet qui a une visibilité sur du plus long terme. Et en fait, je pense que c'est des événements de vie qui nous poussent à réfléchir un petit peu différemment. Parce que c'est vrai que tant que t'as pas d'enfant, je pense que l'organisation, et nous on s'est fait la réflexion avec ma femme, hein, sans enfant, à 9 h le soir, on peut se demander ce qu'on allait manger. On s'en sort. Là, aujourd'hui, à 13 h, à l'heure de la purée, si on n'avait pas anticipé qu'il lui fallait une comment ça s'appelle? Je sais même plus ce qu'on lui a fait manger aujourd'hui. L'autre jour, c'était des courgettes. Eh ben non, on s'en sort pas. Et je pense qu'il y a des réflexions comme ça. Moi, le fait d'être travailleur indépendant fait aussi qu'il y a des choses où on est obligé d'anticiper. Par exemple, sur la gestion du budget, je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour être indépendants. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'histoire de la remise en cause du salariat pour moi est un truc. Je dis, tout le monde n'est pas fait pour être travailleur indépendant parce que ça met une incertitude qui est quand même très importante, très très importante. Et il y a des gens qui aiment bien être guidés aussi. Qui aime bien ce truc d'être le matin au bureau, d'avoir des chefs, d'avoir une structure, etc., qui t'englobe. Travailleur indépendant, c'est pas fait pour tout le monde. Être salarié, c'est pas fait pour tout le monde, etc. Et je pense qu'à un moment donné aussi, tu te rends compte du parcours que t'as fait, tu te rends compte qu'il y a des changements qui vont arriver, et tu cherches un moyen d'y attraper. Alors, il y en a qui lisent des livres de développement personnel et qui ne les appliquent jamais. Et je pense qu'en fait, vous, avec Relife, vous écrivez un livre de développement personnel, mais en audio. C'est-à-dire que vous creusez le sujet, vous confrontez, etc. Je pense aussi à des épisodes où, avec Tom, etc., où des fois, il y a des très catégoriques sur des sujets, font aussi beaucoup réfléchir. Et je pense que c'est aussi deux manières d'apprendre les choses. Il y a ceux qui lisent et puis ceux qui se disent, bah, tiens, je vais le prendre par un autre bout. Et je vais aussi réfléchir différemment aussi, quoi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, je me retrouve dans ce que tu décris. C'est typiquement, c'est marrant parce que je suis pas. Tu évoques les livres. Je suis pas un bon lecteur parce que je n'arrive pas à me concentrer beaucoup sur un livre. Ça fait très longtemps que je suis pas arrivé à me passionner pour lire un bouquin d'une traite. Si, il y a la vérité sur l'affaire Harry Kéber que j'avais dévoré en une fois. Mais typiquement, le contenu écrit, je pense vraiment, je suis biaisé par la veille que je fais. Peut-être que c'est une excuse. Là encore, je m'ouvre au dernier propos que tu as tenu dans votre coach OM. Je me trouve peut-être des excuses. Mais je suis très facilement victime d'un YouTube qui va m'attraper, me captiver avec une vidéo, mais qui en plus est soit parfaitement passionnante, soit vraiment fondamentalement débile. C'est ça qui est difficile sur ce type de contenu. Je vais les enchaîner et je vais pas voir le temps passer. Et hop, encore une soirée où finalement j'ai pas lu, j'ai pas consulté un bouquin, j'ai pas fait des choses qui peuvent être considérées comme bien plus intelligentes. Et le lendemain soir, je vais me refaire avoir, c'est-à-dire que je vais me coucher peut-être un peu plus tôt. Il va être, je sais pas, 10h, 10h30. Ah, journée est terminée. Allez, j'ai bien mérité. Ah, j'ai un peu la flemme d'ouvrir un bouquin. Mais c'est fou, hein. Et je vais lancer un YouTube. Chose d'ailleurs pour laquelle je reviens à mon petit sujet tech de tout à l'heure, pour laquelle je trouve que les propositions qui sont faites par Google via Android ou Apple sur iOS de limiter comme ça ton temps d'usage de certaines apps, ou en tout cas de te faire prendre conscience des consommations de certaines apps, est vraiment bien faite pour les personnes comme moi qui a été trop victime des usages au départ. Il y a des personnes qui disent c'est dingue qu'on ait besoin de ces fonctionnalités là aujourd'hui pour se réguler. Ben ouais, j'avoue que je me suis fait pas mal attraper par ces fonctionnalités là et je suis content de voir ce genre de choses qui arrivent. Je connais aussi des personnes qui sont lancées sur Instagram sur des sujets qui leur sont chers à titre perso, qui se sont plongées dedans et au bout de quelques temps, je le voyais vachement sur son smartphone. Et puis il y a un collègue qui lui dit, mais t'as passé combien de temps cette semaine dessus? Bah, je sais pas, on peut pas savoir. Il a regardé sur son iPhone et il a vu qu'il avait passé, une dizaine d'heures à consulter Instagram, à l'animer pour gérer son compte perso. Donc, tout ça pour dire que, je prends beaucoup ce que tu es en train de souligner comme étant un élément de pondération de cette analyse-là, du fait que effectivement probablement que ReLife notamment, qui est notre podcast sur l'amélioration du quotidien, est peut-être une manière de nous garder ce jardin de consultation et de production de contenu intelligent. Je pense que de toute façon produire intelligent, encore une fois avec des guillemets, je le veux plus. Ne parlons pas d'intelligence, parlons peut-être de pérennité du contenu et de valeur ajoutée sur l'être humain aujourd'hui. Je pense que ça a plus de sens. Et effectivement, je pense que, je parle à la place de Matt, il faudrait voir avec lui, mais j'ai l'impression de mon côté que c'est un petit peu mon jardin de contenu à valeur ajoutée que je garde. Cette régularité qu'on a tous les mois avec Matt, à laquelle on ne déroge plus, et aussi quelque chose qui nous est cher. Et cette manière de produire ce contenu-là est une manière pour nous de nous alimenter en contenu et peut-être de compenser cette faible consommation de livres, d'autres types de sources de contenu. Je le vois vraiment comme ça, en tout cas.
Ouais, puis ça t'oblige à lire des bouquins, en plus, parce que j'ai écouté un épisode où t'avais dit que t'avais lu le bouquin, etc. Et sur cette histoire d'ailleurs de contenu, après on reprendra sur l'histoire des podcasts, je me suis fait une réflexion hier en parcourant Netflix. Ils ont lancé une série qui s'appelle Bref. Oui, je crois que c'est Bref, hein. Une série de documentaires dont les épisodes ne font que 20 minutes. Mais en fait, je m'étais dit, mais c'est bizarre. Et en fait, si on regarde Netflix, il y a beaucoup de choses qui durent, mais très longtemps. Des documentaires qui font plus d'une heure, largement, une heure et demie, deux heures pour certains, etc. Ils ont pas de contenu si court que ça. Bon, après, bien sûr, il y a les séries qui font 20, 25 minutes. Il y a beaucoup d'épisodes à 50 minutes dans les séries. Et je m'étais fait la réflexion quand même de dire, on dit que les gens consomment du contenu court, hein, YouTube, etc. Mais en fait, on le zappe aussi super vite. Il y a des choses comme ça. Et on est capable de regarder des trucs qui sont beaucoup plus longs et super intéressants. Mais en fait, il y a un moment donné, c'est vrai que, et c'est là où peut-être on verra si iOS 12 et Android arrivent à nous sauver de ça. On a toujours la tentation de regarder ce qui se passe sur les outils qui vont des fois plus vite.
Ah ouais, tout
et on
à
a
fait.
La fainéantise, on a des choses comme ça. Mais en fait, moi c'est mon avis, mais je pense que le podcast fait partie du même système de fainéantise.
Tout à fait. J'en suis convaincu, ouais. J'en suis convaincu. Je me revois le soir. Pour moi, c'est le moment emblématique. D'ailleurs, faudrait peut-être que je remette ce principe en question, qui est de la consultation de contenu le soir, que ce soit de livres ou vidéos ou je ne sais quoi. J'avoue que j'ai mon iPad entre les mains. Je viens de finir ma veille ou je viens, je sais pas, d'envoyer un message ou je le consomme trop de toute façon, mais je l'ai entre les mains. Eh ben, je vais plus facilement à lancer un YouTube qu'aller prendre le bouquin, mais qui est juste à côté. J'ai l'impression que vraiment nos profils ont changé. Et t'as raison, le fait que ce soit de la vidéo est un élément, à mon avis, déterminant quand on voit qu'on est capable de se lancer. Et ça m'arrive régulièrement, hein, de lancer une série et de la binge-watcher de 3-4 épisodes dans la soirée. Je me rappelle avoir fait ça pour Stranger Things. J'avais un week-end où j'étais tout seul, j'avais pas les enfants.
Mais j'aurais pu passer mon week-end à lire, quoi. J'aurais pu passer mon week-end à produire du contenu, mais j'ai regardé parce que je voulais voir la série à la mode. Allez, juste le premier épisode. Eh ben, voilà, la mécanique narrative est tellement bien construite que de toute façon, tu te fais avoir. Je crois pas que on puisse attendre notre salut uniquement de ces petites fonctionnalités-là, hein, pour reprendre ce que tu dis sur iOS 12 et Android P et puis d'autres plateformes. C'est des éléments, et il y aura probablement besoin d'une somme d'éléments pour nous faire sortir de cette spirale infernale, effectivement. Mais bon, on va
revenir au sujet du podcast. Bon, cette longue aparté, quand même, c'est pour dire à quel point c'est difficile de séparer des fois le production de contenu de tout ça, parce que finalement, c'est intimement lié. Je reviens toujours sur mon e-book, hein. J'ai écrit un chapitre sur l'obsession, la création de podcast, et comme je pense que t'es obsédé par... ce que tu vas mettre dans les émissions, ce qu'il faut regarder, etc. En fait, quand on crée des contenus et quand on veut parler aux gens, on devient obsédé par son sujet, et c'est ce qui est bon, parce que quand on est obsédé, tout devient en fait un sujet quoi. Mais même, enfin, si ce week-end tu vas chez IKEA, tu peux voir un truc, je suis sûr que tu peux faire une émission tech sur ce que t'as vu à IKEA, à la caisse ou quoi que ce soit, sur les améliorations possibles, sur ce que la personne faisait en même temps devant toi à la caisse au lieu d'avancer, enfin tout un tas de choses comme ça. Et ça fait partie aussi, et je pense que les gens qui ne créent pas du contenu ont du mal à le comprendre. Cette notion-là de dire, mais t'as toujours une idée, d'où viennent ces idées-là, etc. Et je pense qu'en fait, que créer du contenu, et t'as dû t'en rendre compte aussi, je pense, t'as musclé ta capacité finalement à rebondir sur n'importe quoi.
Alors ouais, je me l'étais pas formalisé, mais en y réfléchissant, il y a de ça. Je crois vraiment, de mon point de vue, je rajouterais quand même un élément pour que ça marche, en tout cas pour moi, c'est la production de contenu régulier, quoi. Et régulier, j'entends, je le vois vraiment sur cette production de contenu hebdomadaire. Et je comprends encore une fois bien ta démarche de revenir à du quotidien, tu t'en es déjà expliqué, on va pas reparler là, mais je crois que ça a des vertus énormes, cette régularité. En fait, pour la petite anecdote, tablette tactile, au début, je voyais bien que ça... Tablette café, pardon, je voyais bien que ça... Je fais la confusion à chaque fois, hein. Faudra pas m'en vouloir, mais le podcast tablette café, quand on l'a lancé, c'était tous les 15 jours parce que j'avais bien identifié que ça prenait du temps. Et surtout, au début, quand tu sais pas t'y prendre, tu cherches, quoi. Tu cherches pour faire le montage, pour découper le petit son, rajouter du générique, et puis tu perds du temps infini à des conneries, style tes vignettes de podcast. Enfin, le temps que j'ai pu passer à concevoir des vignettes à chaque fois. Bon, bref. Et j'avais anticipé que ça prenait du temps, et donc c'était tous les 15 jours. Pareil pour Tech Café, notamment parce que j'avais des enfants. J'avais cette espèce de rendez-vous tous les 15 jours où je devais produire du contenu. Mais je me rendais compte que la fatigue qui était occasionnée, on le prendra comme on veut, mais oui, de produire un épisode, pour moi, ça reste encore aujourd'hui quelque chose de fatigant, même de l'ordre de vraiment physiquement fatigant, une forme de sport, j'allais dire. Je me sens fatigué quand j'ai mis en ligne un épisode. Et j'avais cette petite semaine de repos. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait une semaine dans laquelle je produisais ce contenu en plus de ma veille au quotidien et qui me demandait un petit peu de temps. Et la semaine suivante, j'avais une semaine off de repos. Eh ben, c'était extrêmement agréable, cette semaine de repos, mais je n'étais pas dans cette démarche-là de veille permanente, enfin plus que de veille, c'est-à-dire d'attention dans mon quotidien, parce que j'avais cette semaine en off où je me rends compte que ben, ma veille, elle était moins soutenue cette deuxième semaine. Il y avait des news qui me passaient sous le nez. Il y avait des choses qui, effectivement, dans mon quotidien, m'éloignaient des usages tech. Et du coup, je mettais peut-être plus de temps à me remettre dans mon sujet. Alors, ça veut pas dire que le contenu doit forcément être hebdomadaire ou être quotidien pour être régulier, mais en tout cas, pour un domaine tel que les nouvelles technologies, je me rends compte à quel point il y avait ce besoin de régularité hebdomadaire. Et puis, objectivement, il y a des choses qui se passent dans la tech. Si t'en parles pas dans les 3 jours, ça fait vraiment réchauffer parce que ça a été abordé par tout le monde de plein de manières différentes. Et t'arrives, quand bien même à avoir ton regard complètement original sur les choses, eh ben, t'arrives après la bataille et ça fait bizarre. Donc, le rythme, pour moi, sur la tech, il est hebdomadaire. Et dès la rentrée 2017, là, en septembre 2017, je suis passé en hebdomadaire et ça m'a fait énormément de bien. Mais c'est là où j'ai perçu le plus cette modification sur ma veille au quotidien, sur la manière dont j'appréhende les choses. Tu parles de l'expérience IKEA, c'est un très bon exemple. Les transports, la voiture, les communications avec les proches sont autant d'éléments qui passent sous le prisme de cette attention sur la tech. Et encore une fois, je pense vraiment qu'à chaque sujet, à son rythme, parce que le développement personnel et l'amélioration du quotidien, dès le début de Nip Life, on pouvait le faire tous les 15 jours, tous les mois, même pendant un temps, toutes les semaines, on peut le concevoir de la manière qu'on veut. Là, c'est vraiment un sujet qui touche tellement au quotidien, de par sa définition du titre, hein, de l'amélioration du quotidien, du life hacking, quelle qu'en soit la régularité, si tant est qu'il y a une régularité, on va avoir cette modification de l'attention. Mais par exemple, pour un sujet comme la tech, j'avais besoin de cette régularité hebdomadaire. J'imagine que pour les personnes qui s'intéressent au sport et qui font du contenu autour du sport, pareil, la régularité, ça me semble invraisemblable de te dire que tu peux avoir cette modification de ton attention, de ton entourage, si tu produis du contenu, j'en sais rien, une fois par mois, j'ai l'impression que le sport, ça demande plus de régularité que ça. Donc oui, c'est vrai, produire du contenu modifie l'attention qu'on a autour de nous, mais à condition d'y appliquer la bonne régularité, je pense.
Après, bon, je pense que chacun a son rythme, en fait, après.
Oui, il y a le sujet et chacun. Oui,
voilà, et parce que c'est vrai que le sport, en fait, si tu fais du sport, par exemple, si moi je faisais un podcast sur le running, je pourrais faire un épisode toutes les semaines, tous les mois. Par contre, si je devais faire un épisode, tu vois, sur et les émissions radio sont un très bon exemple, en fait. Hein. La radio est capable de faire des émissions, 2 heures d'émissions sur le foot, tu vois, Zinedine Zidane qui démissionne du Real Madrid la semaine dernière, ça fait des heures et des heures. Ouais, tu peux en parler, mais c'est infini, en fait, ce truc-là. Et en fait, t'en viens, et je sais que vous avez fait, Matt s'est fait la réflexion, et je la trouvais très intéressante, t'en viens à être tellement immergé dans le truc que t'as même plus besoin de préparer, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as... puis des fois, les connexions se font. Alors, je dis pour les gens, parce que ça dépend aussi un petit peu sa caractéristique, si on est introverti, extraverti, etc. Et en fait, les gens ont une mauvaise vision de ce que c'est qu'un introverti, un extraverti. Y a ceux qui pensent et qui parlent, et il y a ceux qui parlent, qui pensent en parlant. Et si on est un peu comme ça, et qu'on a besoin de parler pour penser, ou qu'on est capable de penser en même temps qu'on parle, et ben des formats podcast, mais très quotidien ou hebdomadaire, en fait, deviennent très simples. Bon, bref, c'est un sujet dont on pourrait parler des heures, hein. On va pas refaire un Relife ou d'autres émissions comme ça, mais c'est un sujet, et effectivement, moi, j'y reviendrai régulièrement dessus, parce que je pense, en fait, que l'une des difficultés quand on produit du contenu, c'est aussi, quelque part, de trouver comment le faire et une façon qui soit adaptée à soi. Et c'est un petit peu le sujet dont on parlait tout à l'heure, hein, finalement. C'est que moi, j'ai une manière de produire, tu as une manière de produire, et ceux qui nous écoutent ont une manière de produire. Je recevais l'autre jour un message disant que du quotidien, faire un petit truc au quotidien, c'était pas si simple que ça. Il y a des gens qui ont besoin de faire un gros truc un jour, et puis voilà, et puis d'autres... Moi, je suis adepte du petit pas, voilà, je le dis très clairement, c'est ma philosophie, mais chacun a sa vision des choses. Alors, on va rester sur la veille. Est-ce que tu as des outils fétiches à nous recommander pour faire notre veille ?
Alors, c'est marrant parce que le sujet des outils, c'est un sujet que j'ai bien aimé creuser, réfléchir, explorer. Et en fait, je me suis rendu compte que je perdais énormément de temps. Et d'ailleurs, c'est un principe que je me suis appliqué à peu près tous mes outils de manière générale. Je parle même jusqu'au niveau bricolage, toute proportion gardée sur le niveau de bricolage que j'ai, mais que ce soit équipement à la maison, équipement pour mon boulot, ma veille et équipement en général, je les remets de moins en moins en question. Si je les remets en question, c'est vraiment parce qu'il y a un blocage et non pas parce qu'il y a une envie. Je crois qu'aujourd'hui, on change vachement d'outils parce que il y a le nouvel outil qui vient de sortir, qui nous fait envie, mais je crois pas que ce soit parce qu'on a un besoin fondamental de changer. Typiquement, j'avais besoin d'assainir mes finances sur certains aspects là ces derniers temps. J'ai fait un peu le point et ça y est, j'ai arrêté. Bah, comme beaucoup de monde, hein, je pense, mon abonnement à Evernote, qui me coûtait pas loin de $60 par an, alors qu'il y a OneNote qui est gratuit pour plein d'usages, donc ça me suffisait largement. Typiquement, j'ai choisi parce que j'avais un blocage et pas simplement parce que ça me faisait envie. Alors, pour répondre vraiment à ta question sur l'aspect production de contenu en podcast, notamment avec Tech Café et avec Relife, il y a donc un outil de gestionnaire de notes qui était donc jusque là Evernote et qui est désormais OneNote. J'ai essayé des Google Keep, j'ai essayé des Apple Notes, j'ai essayé plein de choses, mais finalement je trouve que tous ces outils là sont assez équivalents sur les usages qu'on peut en faire. Ils ont vraiment une valeur ajoutée selon les gens avec qui on travaille. Typiquement, si on travaille avec d'autres fanboys comme moi, bah typiquement Apple Note peut être intéressant, mais si on travaille avec des personnes qui sont plus Microsoft du style Matt, bah OneNote est vachement bien. Donc en tout cas, il y a un outil de collecte de notes qui me sert au quotidien et qui me sert aussi pour ma veille vraiment beaucoup. C'est là où je peux taper des conducteurs, où je peux taper des intros, où je peux collecter des liens vers des articles. Enfin voilà, c'est vraiment un réceptacle pour moi et c'est assez central dans ma façon de fonctionner. J'ai un lecteur de flux RSS, je travaille, je sais pas s'il y en a encore beaucoup de personnes qui pourraient dire travailler beaucoup avec un lecteur de flux RSS, mais j'ai ce syndrome du FOMO qui me hante en permanence et j'ai le besoin, le biais j'allais dire, de m'assurer que je suis pas passé à côté d'une news. Donc j'ai un lecteur de flux RSS sur lequel je me suis abonné dans différents dossiers en fonction des thématiques que je veux aborder à différents sites. Et donc je vois les articles remonter de manière, enfin ça retire évidemment toute leur mise en forme. Et ça pour moi c'est un gain précieux, c'est qu'il est très très rare que j'aille aux grandes dames de leur modèle économique sur les sites en question. C'est-à-dire que j'ai des articles qui me remontent systématiquement avec leurs titres et leurs contenus. D'ailleurs j'utilise Feedbin j'utilise Feeder sur iOS beaucoup sur iPad Pro pour justement gérer mon flux RSS avec un abonnement à Feedbin à l'année et notamment cette combinaison me permet d'avoir des articles en intégralité même si il y a beaucoup de sites qui tronquent leur flux RSS pour n'avoir que l'intro. Ça me permet avec le petit moteur, je crois que c'est Mercury, d'avoir la totalité de l'article et ça c'est super important pour moi. Donc je surveille un peu toutes les news, typiquement pour un tech café je balaye mon dossier tech et je regarde toutes les news et je les mets en favori quand je sais que ce sont des news qui sont particulièrement marquantes ou qui en tout cas pour moi nécessite d'être relayé dans un épisode. À côté de ça, j'utilise Google Docs qui est l'outil de construction de conducteurs par excellence pour moi et donc je partage les documents enfin je fais un document pour chaque émission et je partage ça avec les personnes avec qui on fait l'épisode. Deux vertus, d'une part les vertus de Google Docs qui sont monstrueuses pour l'édition de contenu en commun en live même durant l'enregistrement, si tu veux rajouter des liens, en retirer, changer la formulation, les gens partagent ça et si tu sais qu'il y a des news que tu ne veux plus aborder parce que tu n'auras pas le temps, ça va faire un épisode trop long, bah tu peux le faire en live, les gens le voient, je vous explique pas ce que c'est Google Docs, je pense que beaucoup de monde s'en rend compte. Un autre élément qui fait que pour moi Google Docs est précieux, c'est qu'il y a cette petite extension qui permet d'exporter le contenu du Google Doc dans un article WordPress. Parce que l'ensemble de ma diffusion de contenu, que ce soit mon blog ou mes podcasts, fonctionne sous WordPress. Donc évidemment, l'épisode avec John, il y a quelques épisodes étaient captivants à ce niveau-là aussi. Donc j'ai mon WordPress qui diffuse un flux RSS. Pour Tech Café par exemple, le flux du podcast, là où il y a toutes les émissions qui sont diffusées, ce sont autant d'articles qui sont composés, qui sont diffusés avec WordPress et eux-mêmes rédigés sous Google Docs. Donc je gagne du temps parce que j'ai un minimum d'action. Pendant un temps, je faisais un export du conducteur de l'émission, je le réintégrais, j'avais essayé de le réintégrer en Markdown, etc. Je perdais un temps incroyable parce qu'il y avait toute la mise en forme qui sautait à chaque fois et ça me faisait faire des manipulations de dingue. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une méthode là pour exporter mon contenu vers WordPress en un clic qui fait que je gagne un temps de malade. Le titre du doc Google, c'est le titre de mon émission. Je mets la petite image qui va bien pour le site et j'ai juste à rajouter le player pour avoir le fichier audio qui remonte sur la page pour ceux qui le veulent et l'adresse du fichier MP3 qui est l'émission en tant que telle. Donc voilà, ça c'est les éléments que j'utilise pour ma veille et ma production de contenu. Il y a évidemment les réseaux sociaux derrière qui m'aident beaucoup, notamment Twitter, qui est un élément de veille complémentaire parce qu'il peut y avoir des sujets qui remontent de façon à buzzer sur Twitter un peu plus rapidement et pour toute la création du contenu, c'est plus autour de Google Docs et de WordPress. Pour l'audio, j'utilise GarageBand pour enregistrer ma piste en local. On enregistre nos émissions sur Skype et puis j'ai un backup d'enregistrement, c'est-à-dire enfin j'enregistre ma voix en local et en parallèle, j'ai aussi Call Recorder qui enregistre toutes mes conversations Skype, y compris les conversations perso, comme ça si un jour j'ai besoin de ressortir une conversation perso avec quelqu'un, je peux le faire. Si jamais je veux ressortir les bêtises qu'a dit Bertrand Soulier avant qu'on enregistre, je peux le faire, parce qu'on enregistre aujourd'hui sur Skype aussi. Voilà, ça c'est l'essentiel des outils qui me permettent de diffuser mon contenu aujourd'hui.
Alors, je pensais que tu avais mis en place une autre solution d'ailleurs pour enregistrer les émissions. Dans un épisode de Relive, vous avez parlé d'une solution sur le serveur et autres.
Ouais, tout à fait, dont je me souviens plus le nom puisqu'on l'a testé une fois et que la qualité n'était pas encore une fois au rendez-vous. Là encore, c'est sympa d'expérimenter, surtout quand on est à plusieurs, puisqu'il y en a toujours un qui a une idée, donc les autres le suivent pour qu'on puisse explorer les pistes qui se présentent à nous. Mais finalement, aujourd'hui, on a trouvé une solution, enfin moi en tout cas de mon côté, pour les émissions pour lesquelles je partage l'animation avec d'autres personnes, comme on peut le faire ensemble, Bertrand. Bah, typiquement, Skype et l'enregistrement local. Aujourd'hui, moi, j'ai rien trouvé de mieux qui permette d'avoir ce meilleur compromis entre la qualité de son pour qu'il n'y ait pas cet artefact de Skype qui intervienne dans les oreilles des gens, au final, quand ils écoutent les émissions, qui est, c'est toujours un petit peu différent d'un son qui est enregistré en local. Et en même temps, bah, voilà, des outils d'enregistrement. On a testé Hangout, on a testé YouTube Live, on a testé, enfin, plein de choses. Et finalement, bah, Skype a ses défauts, mais continue à être un peu le truc assez incontournable, je trouve, pour l'enregistrement. Donc oui, on a testé des choses, mais les tests ne perdurent jamais beaucoup.
Oui, alors je le dis d'ailleurs, Call Recorder, hein, mais je mettrai les liens, c'est de ICAM, et le logiciel, je crois, qui est utilisé par une grande partie de ceux qui font des émissions à plusieurs. Alors pas tous, parce qu'il y a d'autres outils qui sont assez pointus. Je sais que j'avais regardé Patrick Béja, le matériel qu'il utilisait était sur les logiciels de Rogue, qui sont très bien, mais alors qui demandent aussi un paramétrage. Et le gros avantage de Call Recorder, c'est que notamment, c'est d'une simplicité, mais même une personne, et c'est pour ça que je le dis, mais je ferai un épisode spécifique dessus, un petit 7 minutes sur ces outils-là, même une personne qui ne connaît pas la technique, une fois que c'est installé, qu'il a compris, qu'il a juste appuyé sur un bouton et que ça enregistre, et qu'il se retrouve avec les deux pistes son, la vidéo, même le split d'écran, etc., s'il veut mettre ça sur YouTube... Je sais pas s'il y a moyen plus facile, même si le son, effectivement, quand on garde que le son Skype, il y a un petit coup de distance, il peut y avoir de l'écho, ça dépend comment c'est enregistré. Mais la facilité est quand même redoutable, quoi.
Au point que il se lance même automatiquement, moi, Call Recorder, c'est-à-dire que je lance une conversation. Tu as raison dans la simplicité, c'est le fameux It Just Works, enfin ça fonctionne, quoi. Tu l'as installé et tu lances une conversation, boum, ça l'enregistre.
Ouais. Ouais. Je crois qu'en fait, le plus compliqué dans Call Recorder, je sais pas ton avis, mais peut-être tu te rappelles pas, c'est de l'installation. Parce qu'au début, on se demande comment on l'installe, et puis on se demande comment on le lance. Et en fait, on peut pas le lancer parce qu'il se lance quand on lance Skype.
Ouais, exact.
Et quand on lance Skype, il y a la fenêtre qui apparaît, et là, je la vois aux yeux. Alors même si là, j'enregistre avec un autre logiciel pour le coup. Et c'est à ce moment-là, et la première fois, moi, j'ai trouvé ça super déstabilisant. Et le logiciel ne s'ouvre qu'une fois qu'on a déjà enregistré. Et là, on retrouve avec le logiciel, on retrouve toutes ces pistes son, vidéo, etc. Et je trouve que une fois qu'on a compris ce principe-là. Après, le reste, même les mises à jour se passent merveilleusement bien. J'en ai encore une aujourd'hui. Comme quoi, c'est des fois, il y a des outils qui... il vaut 39$, je crois, le logiciel. Mais si vraiment vous voulez enregistrer ce type de podcast ou de vidéo à plusieurs, je le dis, c'est un investissement qui est très, très vite rentabilisé.
Ah oui, c'est clair.
Et encore l'autre jour, j'écoutais des podcasts sur le matériel, etc., des Américains qui sont quasiment, pas tous, mais beaucoup aussi avec des logiciels comme ça quand on travaille à distance. Donc bon, pour les outils, finalement, t'es assez simple au niveau des outils.
Ah ouais, moi j'aime bien la simplicité et dès qu'il y a des gros branchements, des gros réglages, je sais que ça nuit à ma production de contenu. Là, tu vois, il y a un élément de complémentarité assez intéressant que tu soulèves, que j'avais déjà vu avec Matt en l'occurrence, et c'est très bien qu'il puisse intervenir sur justement plus une partie technique parce que encore une fois, j'ai peur de parler à sa place, mais je crains. Outre l'intérêt qu'il a d'aborder les sujets, un des trucs qui le passionne le plus dans les podcasts, c'est aussi cet aspect technique. Et lui, à ce côté-là, il est capable de beaucoup plus travailler ces choses-là. Il les comprend bien mieux que moi. Il est capable de bien plus s'y passionner. C'est d'ailleurs peut-être un petit clin d'œil qu'on peut faire, c'est que quand on lance une production de contenu à plusieurs, je trouve ça hyper important d'arriver à identifier les points de complémentarité qui sont souvent très, très précieux sur le long terme, notamment, je trouve.
Oui. Alors bon, bah tu vois l'enchaînement, pardon, la transition est parfaite. Justement, comment on lance un podcast? Et pour ceux qui voudraient pas se lancer tout seul, comment on peut lancer un podcast, trouver un co-animateur ou des co-animateurs? Bon, t'as expliqué un petit peu toi comment t'avais fait pour lancer ton premier podcast, mais finalement, comment t'as trouvé ton Matt, ton Guillaume, etc.?
Alors, c'est il y a plein de questions là-dedans. Moi, j'ai trouvé à l'époque Cédric Tamboise, donc la personne qui était derrière tablettetactile.net et avec qui on a fait Tablette Café. C'est vraiment par ce souci, dans un premier temps, de trouver un partenaire de diffusion pour qu'on parte pas d'une audience vide et que je ne parte pas uniquement avec mon point de vue, mais qu'on soit plusieurs à apporter des choses. Même si très vite, c'était assez entendu et assez évident que c'était moi qui jouerais le rôle de Monsieur Loyal, d'animer les choses. Mais il y a Cédric qui est arrivé. La petite anecdote, c'est que Cédric, c'est devenu un ami assez intime maintenant. Je suis parrain de son fils, on se voit régulièrement. Il a plus la possibilité de participer à Tech Café pour sa disponibilité vraiment bon perso, mais c'est devenu quelqu'un de très proche dans ma vie, quoi. Et c'est rigolo de voir à quel point ces productions de contenu, ces médias qu'on peut lancer à titre perso amènent à découvrir des gens et des profils vraiment intéressant. On a beaucoup de parallèles à croire qu'on a des espèces de destinées communes, Cédric et moi. Encore une fois, il doit y avoir des biais de confirmation, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. En tout cas, c'est avec ce premier contact pour joindre Tablette Café et Tablette Tactile. Et après, derrière, il y a derrière un site comme celui-ci qui fait de l'audience, il y a un écosystème humain. Il y a des proches, donc lui connaissait d'autres rédactions telles que Frandroid, donc c'est comme ça aussi que j'ai rencontré ces personnes-là. Et puis il y avait une équipe de rédacteurs, parmi lesquels il y avait Guillaume Poggiaspala, qui intervenait pas forcément très régulièrement, mais de manière assez conséquente et qui a vraiment sa personnalité. Il a son savoir aussi, et typiquement c'est des personnes qui, quand elles sont intervenues dans les podcasts, ben on sent qu'il y a une espèce de d'émulsion, quoi. Il y a quelque chose qui match. Ça veut pas dire que c'est systématique. Il y a des personnes dont je garde très bien le nom en tête et qui étaient adorables et qui apportaient vraiment quelque chose dans le podcast, mais avec qui ça a pas matché sur le long terme pour des raisons de disponibilité à certains moments, mais aussi, voilà, des choses qui font que l'alchimie ne prend pas. Et dans la production de contenu à plusieurs, j'allais dire, c'est un peu comme dans la vie réelle. C'est-à-dire que tu croises des gens, sur le papier, ça peut être des gens avec qui il y a une complémentarité et un intérêt de dingue. Et puis, bah, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est vrai aussi dans cet univers, évidemment. Alors ça, c'est un cas, c'est-à-dire le cas où, en tout cas, de ce que j'ai expérimenté, on va démarcher et donc on ouvre une porte qui elle-même ouvre plein d'autres portes sur d'autres univers. C'est assez génial de voir que cette première initiative amène à plein de résultats, ce qui motive encore une fois, je pense, les gens à pousser cette première porte. Et puis il y a l'autre cas où il faut savoir attraper la balle au rebond, la balle au vol, la balle au bon, je sais plus comment on
le
dit.
Rebond. Voilà. On prend le rebond, ouais.
Mais en tout cas, l'attraper. J'étais sur la plage en 2011, si je dis pas de bêtises, avec ma femme qui était enceinte. On était en vacances, mon fils allait naître en janvier, et je vois, ou c'était peut-être l'année d'après, je sais plus si c'était 2011 ou 2012, mais en tout cas, je vois un tweet de Matt, prof du web, qui cherche quelqu'un pour co-animer un podcast de Life Hacking. Et en fait, j'ai répondu à son tweet en disant, oh, bah, tu peux m'en dire plus. La conversation est venue comme ça. Et ça reste l'histoire qu'on connaît encore aujourd'hui. Et là encore, ça a rayonné. Il y a d'autres portes qui se sont ouvertes avec Mika, qui est une autre personne qui a participé à Nip Life, et puis Tom, que tu as cité tout à l'heure, qui reste là aussi quelqu'un que je classe vite dans la catégorie des amis. Mais ça a été des rencontres. Il y a toujours ces premières portes qui ouvrent d'autres portes derrière et qui rayonnent derrière avec plein de relations. Donc il y a les deux. Il y a l'initiative qu'on peut avoir. On y trouve toujours quelque chose. On est très rarement, je pense, perdant à lancer des bouteilles à la mer. Et inversement, quand on voit une bouteille passer, ben c'est toujours intéressant de soulever le bouchon et de regarder au moins le message et de creuser. Et là aussi, ça m'a tilté quand tu avais fait ton épisode sur le fait de dire oui, de plutôt partir du principe qu'on disait oui. Là, j'avais pas directement dit oui à Matt pour un projet, mais j'ai été suffisamment intrigué pour creuser le sujet. Et après, il y a la magie qui opère ou qui n'opère pas, hein. J'ai fait d'autres initiatives de podcast, je crois même avant Tablette Café, autour du jeu de rôle, qui se sont avérés être des échecs. Enfin, moi, ce que j'ai considéré être des échecs, voilà, notamment j'aimais pas ce qu'on réalisait, j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas la manière dont c'était traité, je ressentais vraiment trop le syndrome de l'imposteur et ça n'a pas matché. Donc ça veut pas dire qu'à chaque fois ça marche, mais ça marche que quand soit on attrape cette opportunité, soit on la crée, quoi. Il y a vraiment pas de secret, en fait, je pense.
Voilà. Là, par exemple, je te dis aujourd'hui, j'ai envie de lancer un podcast. Le conseil que tu me donnes, c'est je le lance tout seul, j'essaie de me trouver un co-animateur,
Ah, ça dépasse, ça va être, enfin, moi, je trouve ça super compliqué de répondre à cette question parce que chaque sujet peut être traité d'un tel nombre de facettes, enfin, tellement de manières différentes. Je sais pas si c'est possible aujourd'hui de conseiller dans un cas plutôt le solo ou plutôt le cas à plusieurs. C'est un peu comme on va le sentir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles on va avoir envie de ne pas dépendre des autres parce qu'on sait qu'on va peut-être trop remettre en question le rythme de production de contenu. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, ton initiative que tu avais eue de lancer un podcast quotidien, mais jamais de la vie, tu te serais engagé à chaud à lancer un podcast quotidien avec quelqu'un. Enfin, j'ai l'impression, à moins évidemment d'avoir quelqu'un avec qui déjà tu travailles, qui a la même idée que toi et avec qui ça matche. J'imagine que c'est assez rare. Mais typiquement, il y a des formats, je pense, le quotidien comme ça, tel que toi tu l'animes. Ça me paraît compliqué de le faire à plusieurs, en tout cas systématiquement. Et après, il y a aussi les sujets qui s'y prêtent ou pas. Je trouve que la tech, c'est ces sujets sur lesquels il n'y a pas de choses vraies ou de choses fausses. Enfin, il y a des choses qui sont plus vraies que d'autres, mais il y a aussi des points de vue, et c'est ça qui est intéressant aussi, je trouve, dans le sujet qu'on amène. Si jamais on parle d'un jeu vidéo, de simplement le décrire, c'est une façon d'aborder le sujet, mais de rentrer dans une mécanique de discussion avec quelqu'un pour dire, est-ce que toi t'as aimé ce jeu vidéo, moi je l'ai aimé parce que ceci, je l'ai pas aimé parce que cela, ça apporte quelque chose de différent. Donc, je crois que finalement tout est possible. Je pense même qu'on peut parler de sport tout seul. On peut parler de sport à plusieurs. Il y a des sports, encore une fois, je pense qu'ils s'y prêtent plus que d'autres. Typiquement, le foot se prête probablement très bien à ce qu'il y ait des discussions à plusieurs. Le running se prête très bien, je trouve, à quelque chose qui serait plus en solo. Donc finalement, c'est un peu, là encore, au feeling. Hein. Je ne sais pas s'il y a une règle. Je ne sais pas comment tu vois les choses, toi, de ton côté, là-dessus.
Oui, alors, tu vois, par exemple, sur le running, moi, j'écoute, comment il s'appelle, Jogging Monito, où ils sont 3, 4, 5, je sais même plus combien ils sont, tu vois, à force. Et ça se prête bien parce que des fois, en plus, ils se prennent le chou, quoi. Ils ont pas la même vision des choses. Donc, je pense que c'est un aspect important, en fait, hein, de ça. C'est vrai que le quotidien, franchement, je pense que il y a personne qui est capable de, si je dis à quelqu'un, je lui envoie un message, je dis, tiens, on fait un podcast quotidien, j'aurais trouvé personne.
Mais c'est une idée, hein, mais enfin, excuse-moi, je te coupe, mais dans la production de contenu, il y a quelque chose aussi à gérer d'un point de vue familial. Quand on ne vit pas tout seul, il y a quelque chose à matcher parce que c'est du temps qu'on passe à quelque chose, c'est un projet qu'on lance. Probablement, il y a les membres de votre famille qui vont vous entendre dans la maison, peut-être une fois par semaine, parler tout seul derrière un micro. Ça peut être un peu spécial, mais il y a quelque chose de très engageant. Moi, j'imagine qu'effectivement, si demain tu te lances à produire du contenu quotidien avec quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui touche à de l'intime. Il y a cette relation intime qui passe à l'audio. Et là, j'imagine encore plus à quel point ça doit être flagrant. Quoi.
Oui, mais je pense que de toute façon le quotidien à plusieurs, à mon avis, c'est même toi, mari et femme, je pense que ça passe pas. Ou alors vraiment, parce qu'il y a toujours des moments où tu t'entendras pas, il y a des moments où t'es un peu fâché, des moments où t'as les tout un tas de choses qui font que je pense que t'as pas envie d'enregistrer un truc.
C'est comme travailler en couple, hein, d'ailleurs, au passage. Enfin, ouais. Moi, je pense que j'aurais du mal. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est l'idéal ou même c'est l'épanouissement le plus complet parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Moi, perso, j'aurais du mal, mais bon, là encore, chacun est différent.
Après, je pense qu'effectivement, les sujets peuvent varier. Hein, il y a des sujets qui se prêtent bien. Et c'est vrai que t'as raison hein, quand tu disais... bien sûr, on pense au sport collectif, etc. Ils peuvent très bien s'y prêter, mais je pense qu'en fait, on aurait des trucs très intéressants, tu vois, on va faire un podcast sur la Coupe du Monde de foot en étant tout seul, tu vois, vivre les matchs, etc., avec un petit retour, peut être très intéressant. De même que, par exemple, je pense à l'environnement, tu vois, si on pense à l'environnement Apple, dont on parlait tout à l'heure. Dans les podcasts, il y en a qui le font tout seul, il y en a qui vont le faire à plusieurs, il y en a qui vont faire leur retour, etc. Il y en a qui vont en discuter pendant des heures. Et en fait, je pense qu'après, c'est chacun, effectivement, va retrouver un petit peu comment il se sent. Moi, c'est vrai qu'il y a un truc, et ce que je disais au début, tout début, c'est que l'organisation à plusieurs est quand même un truc qui est pas simple à caler. Et encore à deux, ça va. Mais j'imagine pas quand vous étiez à 4.
Ouais, ouais, c'est, je, bon, c'est un secret pour personne. Le Nip Life, le podcast a vécu. Donc, quand on dit qu'il a vécu, ça veut dire qu'il y a eu des moments extraordinaires. Il s'est mis en pause, etc. On s'est retrouvé effectivement à 4 à un moment dans l'équipe de ce podcast, qu'on a toujours voulu très, c'est un podcast de gaucho, quoi. Chacun a le même rôle. Et en fait, je crois pas trop à la viabilité de ce genre de truc quand il y a plus de 2 personnes. Je pense vraiment intimement aujourd'hui, dans le format ReLive du podcast là, avec Matt, on est 2. C'est très facile d'avoir une complémentarité et pas forcément un niveau de, comment dire, d'hiérarchie. Je sais pas si le terme est bien trouvé. Mais dans Tech Café, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne, c'est que je suis un petit peu le fil rouge du truc. C'est un peu mon bébé, Tech Café, et c'est moi qui l'anime. Et les personnes peuvent avoir une place plus ou moins importante de par la fréquence, de par l'intérêt que les auditeurs aussi ont par rapport à ces gens-là. Mais c'est un petit peu moi qui fais l'organisation, et ça, c'est assez acté. Donc, encore une fois, c'est pas un niveau hiérarchique, mais c'est moi qui anime, c'est moi qui planifie les épisodes, c'est moi qui vais inviter telle personne. Là, je suis en train de vérifier, j'ai peut-être avoir la chance d'avoir un chouette youtubeur, j'aime bien, là, pour le prochain Tech Café. C'est moi qui initie ces genres de choses, et c'est moi qui reste le chef d'orchestre là-dessus, et encore une fois, un peu le monsieur loyal. À 2, c'est possible de pas l'avoir. Au-delà de 2, je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit référent et qui se charge de l'animation. J'ai aussi en tête un autre podcast qui s'appelle Podcast Science, qui est vraiment formidable, qui au début était fait par 2 personnes. Ces 2 personnes ne sont plus dans l'équipe régulière de l'animation du podcast. Et depuis, ça a tourné, c'est-à-dire qu'il y a eu, ils appellent ça d'ailleurs le dictateur, hein, la personne qui fait ce boulot-là. Je trouve que c'est un terme qui est très intéressant, parce qu'il faut aussi avoir ce côté un peu dictateur pour que ça continue à tourner, que ça continue à avoir sa régularité. Mais cet individu, enfin ce rôle a changé dans Podcast Science à plusieurs reprises ces derniers temps. Eh ben, je sens moi derrière qu'il y a plus forcément comment dire, cette régularité éditoriale, même s'ils sortent un épisode avec la même régularité, je sens pas la même régularité et la même homogénéité dans le temps, dans leurs épisodes. Mmh. C'est un truc que je regrette un peu, d'ailleurs.
Oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, quand t'as quelqu'un qui dirige et qui met sa patte systématiquement, tu retrouves la continuité, tu retrouves plein de choses. Moi, après, c'est vrai que pourquoi j'ai choisi le quotidien, c'était d'une part, mais j'ai dit, hein, c'était, ça me permettait de me former, moi, en accéléré. Et le fait d'être en seul rend possible le quotidien. J'ai enregistré des épisodes à 23h58, hein, fin d'enregistrement, et j'en ai enregistré à 5h. Dans les tout premiers, hein, j'avais même mis la musique de « Il est 5h, Paris s'éveille » un jour, parce que je me suis dit « Mais comment c'est ?» Et en fait, j'en ai enregistré plein à 5h du matin, mais sans le dire. Et j'en ai enregistré plein à 23h, mais des fois en le disant, et des fois avec une fatigue qui était là. Mais je me disais « Il faut pas que tu brises la chaîne, bordel, faut que tu arrives à tenir ton truc. » Et au 147e épisode d'affilée, hein, juste avant décembre, je me suis dit, allez, là, tu lâches le truc. Et tu sais que, en fait, au début, je m'étais dit, je vais arriver jusqu'au nouvel an. Je m'étais dit, le 25 au matin, ou au soir, ou n'importe quel an, et même le 31, je me débrouillerai pour enregistrer. Et je sais pas pourquoi, j'ai le 24, j'avais envie de faire de la vidéo, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Et puis à partir de ce moment-là, du moment que la chaîne a été brisée, par contre, la reprendre était devenue beaucoup plus compliquée, tu vois, de se relancer, etc. Enfin bref, et j'avais personne en plus qui me dit bon, et tu vas te bouger le cul là, tu vas reprendre, etc. Et puis l'épisode sur les excuses était aussi là-dedans. Hein, après, je me suis trouvé des excuses, je me suis dit bon. Puis au bout d'un moment, je me suis dit mais putain, c'était bien quand même, tous les jours, à faire ton petit truc, etc. Et après, je l'ai dit l'autre jour, j'enregistre pas tous les jours, voilà. Mais je me suis donné le but de publier tous les jours et d'enregistrer 3-4 fois par semaine, en fait. Hein. Je les enregistre par 2 ou par 3. L'autre jour, j'en ai enregistré 4 d'un coup. Le but du jeu, c'est que le samedi matin et dimanche matin, vous y allez à 7h, mais moi, le dimanche matin à 7h, je suis sur les chemins en train de courir. Donc je suis pas derrière le bouton enregistrer, publier, etc. C'est pas du tout que je fais la grasse mat en fait, parce que je dors pas. Ce matin j'étais arrivé à 5h, donc j'ai commencé à 5h, j'aurais pu enregistrer. Mais c'est pour ça que je peux pas faire de live aussi. C'est un peu compliqué. D'ailleurs, vous avez fait un peu de live, hein, sur l'enregistrement de ReLife, il me semble.
Ouais, ça nous était arrivé et c'était des expériences vraiment géniales. D'ailleurs, on en a refait il y a pas très longtemps. C'est pas un truc sur lequel on a beaucoup bossé. Ça devrait être un objectif qu'on devrait se donner parce que l'exercice est assez formidable. En fait, t'as toujours les auditeurs réguliers qui te consultent. Et je revoyais, je me rappelle d'une photo d'un autre podcasteur que vous connaissez peut-être, The Walking Dad, Antoine, qui nous suivait, et je me rappelle avoir vu cette photo qu'il avait prise de lui dans son salon. Il avait mis sur l'Apple TV les vidéos de l'enregistrement en live, et il nous écoutait comme il regarderait la diffusion d'une série ou d'un film. Cette proximité, elle est géniale, elle est unique. Et le live apporte quelque chose de vraiment sympa, notamment au niveau des retours. Tu te fais corriger en live, ça c'est top, tu te fais fact-checker, et en plus, on t'inspire à découvrir d'autres choses. Par contre, c'est vraiment un exercice difficile. Il faut limite qu'il y ait une personne qui soit dédiée à interagir, et c'est difficile d'avoir l'animation d'un épisode, on déroule un dossier, et en même temps de suivre les interactions en live. Mmh. Je trouve que c'est vraiment compliqué, et ça demande des compétences un talent de dingue, quoi. Une organisation hors pair, je pense.
Oui. Alors, on le voit d'ailleurs chez Jérôme Kienborg, le matin, quand il fait ses lives, il y a des modérateurs, bien sûr, pour relancer, ouais. Il y a des rappels. On voit que par moments, il est obligé de regarder, de s'arrêter pour regarder. Ouais. Et il peut le faire en vidéo, mais en fait, sinon, on le faisait en audio. C'est l'autre jour, par exemple, j'écoute pas la version audio, qui produit à partir de sa vidéo du matin. Mais en fait, je m'étais fait la réflexion, c'est que si on écoute en audio et que pendant 10-15 secondes, il y a une pause, on se dit, mais attends, mon truc, il marche plus, quoi. Enfin, ça, il y a un problème, quoi. Une pause d'une seconde, deux secondes, bon, ça passe, mais quand il y a une pause de 10, 15 secondes et que t'es en train de lire les commentaires à l'écran, il y a quelqu'un qui écouterait ça en audio, je pense, qui se dit, mais attends, mon truc, il déconne, il s'est encore planté, je vais jeter mon iPhone, je vais acheter un Android, quoi. Enfin, un truc dans le genre là. Et alors que, bon, ça provoquerait des drôles de galères là-dessus. On a parlé donc de se lancer, etc. Comment tes conseils pour faire connaître son podcast une fois qu'on est lancé, là? On est parti, on...
Ah, alors c'est marrant parce que tu m'avais en plus cité cette question au moins tout à l'heure et je crois qu'on en avait même parlé. J'ai pas pris le temps de le bosser, alors je vais essayer de donner ce qui ressemble à des conseils un peu en live. Donc, quelque chose qui est apparu en filigrane de toute notre conversation depuis tout à l'heure, c'est que je trouve ça cool d'avoir un projet, de l'initier. Et alors, ça marche évidemment si on n'est pas que en solo, mais de solliciter une audience qui est déjà installée. Alors, ça peut être un autre podcasteur, hein, ça peut être quelqu'un qu'on va aller solliciter pour dire, voilà, moi, j'ai besoin là de me lancer pour un nouveau projet. Est-ce que tu peux participer avec moi pour les N premiers épisodes? Ou typiquement une rédaction, donc typiquement par rapport à un site de news qui pourrait être très complémentaire. Ça, c'est une chose, de trouver des médias qui sont déjà installés. Je pense qu'il y a des communautés de tout. Typiquement, encore une fois, on parlait tout à l'heure de Patrick Béja qui avait lancé à l'époque son podcast sur World of Warcraft. La façon dont il l'a fait connaître, c'est justement les forums officiels de Blizzard, qui est la société qui édite World of Warcraft. Et c'est là-dessus qu'il l'a fait connaître, sur des forums de jeux vidéo. Donc typiquement, je pense qu'il y a des communautés autour de centres d'intérêt auprès de qui il faut pas hésiter à aller dire qu'on lance un podcast. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de podcasts, notamment en francophone, mais il y a plein de sujets à explorer. Je suis à peu près persuadé que demain, si on explore un sujet tel que l'élevage de chiens à travers un podcast, il faut aller sur un forum où il y a ces discussions-là génériques et relayer le sujet, ça c'est clair. Après, il y a évidemment les réseaux sociaux qui, ça paraît trivial, mais que ce soit au lancement ou que ce soit après dans l'animation et la diffusion des différents épisodes d'un podcast, je pense que c'est évidemment hyper important. Qu'est-ce que je pourrais avoir en tête? Un truc que j'expérimente depuis peu de temps, mais qui va peut-être pas forcément avoir des vertus en termes de construction d'audience, c'est la construction d'une newsletter, typiquement, mais ça, t'as déjà fait des épisodes dessus, je crois qu'il y a des vraies vertus à ça. Alors, ça va pas aider forcément à se faire connaître, par contre, en termes de relations de proximité et de fidélisation de l'audience, je trouve que ça apporte quelque chose d'hyper intéressant. Je pense que je vais continuer à le bosser. Est-ce que j'ai beaucoup d'autres choses que je pourrais citer pour un podcast? C'est un petit peu tout le problème et toute la question que je peux me poser pour développer Tech Café, c'est que de faire connaître un podcast aujourd'hui, c'est pas encore super évident, quoi. Déjà, le podcast en tant que tel est un truc assez obscur pour une grande partie de la population, je pense. Et donc, ça n'aide pas, quoi. Je suis en train d'essayer, moi, de me détacher de certains codes de la production de contenu, de podcasts indépendants. Typiquement, j'ai revu mon intro dans Tech Café, ça paraît bête, mais j'en fais quelque chose de beaucoup plus radiophonique et je pense que je vais m'inspirer beaucoup de ce que font les radios dans les émissions de news pour réinjecter ça. Parce que on part du principe, quand on fait un podcast indépendant, qu'on a une liberté de parole, de format, ce qui est vrai. Mais par contre, il faut pas s'étonner en face que les gens ne retrouvent pas les codes qu'ils ont l'habitude d'utiliser en écoutant une émission de radio. Donc, je pense qu'on peut avoir les avantages d'un podcast indépendant sans pour autant mettre de côté certains éléments positifs de la radio. Ça veut pas dire que tout le monde doit faire l'animateur de radio, mais il y a des incontournables. Typiquement, moi, je me suis rendu compte que je ne représentais plus les invités réguliers que j'avais. Les chroniqueurs de Tech Café, je les représentais plus, je disais juste leur prénom, leur nom, la petite boutade qui va bien pour les connaisseurs et c'est tout, sauf que le problème, c'est que quand on va après dire à quelqu'un, bah tiens, écoute le podcast que je fais, Tech Café, tu verras, on en parle dans le dernier épisode, je m'imagine la personne qui va écouter cet épisode et se dire, mais au début, dans quoi je suis arrivé ? Enfin, je dis ça parce que j'ai eu ce retour-là. Hein. Donc, c'est important aussi de savoir capitaliser sur les choses qui fonctionnent, notamment en termes de format, je pense.
Alors, c'est toute la difficulté, et alors là, et c'est un truc aussi qu'on retrouve sur YouTube, cette difficulté-là. Notamment, tu sais, quand on fait de la vidéo sur YouTube, il y a toujours une question, il y a des gens qui donnent le conseil en disant, il faut se présenter au début. Et voilà, parce que quelqu'un qui tombe sur la vidéo, il te découvre, donc il faut qu'il sache quitter. Mais en fait, quelqu'un qui est régulier, bah, il s'est déjà quitté, en fait, et il y a la proximité, l'intimité, la relation même. Et attention, et je suis sûr qu'on a le même phénomène en podcast, mais sur YouTube, il faut se rappeler qu'un tiers des adolescents français considèrent que les YouTubeurs influenceurs sont leurs amis. Donc ça veut dire qu'en fait, ils ont pas besoin de se présenter parce que, c'est, on sait qui c'est, voilà, on sait leur journée, on sait ce qu'ils ont fait hier, avant-hier, etc. Et, c'est, d'ailleurs, c'est tellement vrai, l'autre jour, j'étais avec une journaliste du journal local et qui me demande, on parlait des podcasts comme ça, de blogs, etc. Et je lui dis, ouais, mais moi, de toute façon, personne me reconnaît dans la rue, je suis tranquille.
Ah oui,
etc.
J'avais vu,
j'ai une petite audience. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui me croise dans la rue et, enfin, au parc, il me dit, ouais, mais c'est la petite Camille, c'est Bertrand et tout, comment tu vas bien? Qu'est-ce que tu prépares comme course en ce moment? Et je me suis dit, tu vois, cette personne-là, j'ai pas besoin de me représenter avec elle. Et je comprends, en fait, ta logique. Et c'est une question que je me posais d'ailleurs depuis longtemps, et on pourra en débattre longtemps de ça. C'est que moi, je pense qu'en fait, le podcast indépendant, il a pas à singer, il a pas intérêt même à trop aller vers la radio et à trop singer la radio. Les Américains reprennent beaucoup de codes, et dans les codes qui sont, alors il y a le code du micro qui fait la voix grave comme ça, qui t'arrache les oreilles. Alors que voilà, et j'en parlais avec quelqu'un qui fait de la radio il y a pas longtemps, il me dit, bah, tu mets le bon micro, de toute façon, tu auras la même voix de Barry White sans aucun souci. Il y avait un côté aussi, et je pense que ça vient aussi, en fait, un des défauts qu'on a pour beaucoup, c'est que les Américains sont en train de singer sur aussi la monétisation par rapport aux émissions radio, avec les sponsoring, avec la coupure, avec tout un tas de choses, et qui font que, par exemple, je sais pas si tu écoutes le podcast de Tim Ferriss, et en fait, j'ai arrêté. Tout simplement parce que les trois premières minutes c'est la pub. C'est voilà. Alors
ils sont nombreux comme ça. Hein. Ils sont très nombreux, effectivement.
On peut sauter les trucs, etc. Et au bout d'un moment, on se demande si c'est un podcast qui fait la pub ou quelle est la partie du contenu, etc. Alors les Américains sont très 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 à l'aise avec ça. Mais on se rend compte aussi que tout ce qu'il y a sur la mesure d'audience des podcasts, sur plein de choses, sont sûrement liés à cette à ces problèmes de monétisation. Ouais. Bon, toi, t'as pas de pub, et on va en parler de la monétisation du podcast qui finalement te rapporte de l'argent par d'autres biais. Et j'aime bien la démarche de Patrick Béja, et puis il l'explique très très bien avec ses mots aussi sur comment on arrive à vivre de son podcast finalement sans y insérer la moindre pub, ou en tout cas la moindre pub directe en étant payé, parce que forcément, quand on va dire du bien d'un téléphone parce qu'on est utilisateur, bah, on va faire de la pub, mais sans être payé pour ça. Et je pense aussi que le format radiophonique, il faut se méfier de pas aller jusqu'au bout de la copie de ça. J'aime bien effectivement, et moi je m'étais posé la question, est-ce qu'il faut un générique, quels sons ils font, est-ce qu'il faut tel matériel, etc. Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent et qu'on me pose souvent d'ailleurs, parce que en plus il y a une image, c'est que le podcast, c'est dans la tête des gens pour beaucoup, c'est encore Radio France qui diffuse sur
en replay,
en replay, etc. Alors qu'en fait, moi j'ai fait un petit bout de formation un jour, un test de formation de 15 minutes sur qu'est-ce qu'un podcast. Donc 15 minutes, c'était 5 ou 6, attends, je sais même plus. Bon, bref. Et le premier truc, il me dit, ah oui, j'ai écouté ceux de Radio France sur iTunes. Et je dis, non, mais il y a autre chose. Il faut passer à autre chose. Et je pense que c'est une des questions, tu vois, cette histoire de reprendre certains codes de la radio et puis en oublier certains autres. Je pense qu'effectivement, on va être dans ce cul entre deux chaises, j'ai envie de dire.
Tout à fait. Il y a des niveaux quand même, je trouve, et t'as raison, il n'y a pas de réponse universelle. Il y a des niveaux. Disons, je pense que Tech Café ressemble, et vous mettez de côté toute la moindre once de prétention que vous pourriez imaginer que j'ai dans ces propos-là, mais ressemble plus à certaines émissions de radio d'actualité autour de la tech, que, par exemple, si je reprends ton exemple par exemple, votre coach web qui ne ressemble, je trouve, à pratiquement, à ma connaissance, aucun format radiophonique. C'est aussi ça où on a des interrogations à avoir, c'est que si jamais on veut s'appuyer sur la production facile que représente un podcast, mais tout en reprenant quelque chose qui ressemble à un format radio, peut-être que ça vaut le coup de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des codes de la radio qui ont fait leur preuve pendant des dizaines et des dizaines d'années que je devrais quand même pas réemprunter? Par contre, effectivement, si vous faites quelque chose d'expérientiel, de narratif, encore que, il y en a, hein, des trucs comme ça, ou tel que ton contenu à toi, je pense qu'effectivement, on peut peut-être plus s'en éloigner. Mais t'as raison, il n'y a pas de réponse universelle, en tout cas, ça c'est clair.
Non, mais c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'après, on pourrait chercher comment rentrer. D'ailleurs, je pense qu'un jour, des podcasts tels Patrick Béja ou peut-être le tien, les tiens, etc., pourraient être pris dans des radios. Avec nous, je sais que Radio France locale invite des blogueurs à venir faire des séquences. Et l'autre jour, j'ai dit à une des blogueuses, j'ai dit, mais fais ton podcast, quoi. Enfin, au lieu d'être invité une fois par mois,
ah, c'est sûr,
et d'amener ton image à toi chez eux pour que, en fait, ils essayent de récupérer un peu d'audience et comme ça, et puis un contenu qui est gratuit, je dis, fais la même séquence toutes les semaines et construis-toi ton audience. Et en plus, elle a déjà un blog, tu vois. Et je disais, le boulot, tu feras le même de préparation, mais sauf qu'en fait, tu vas rester chez toi et tu vas être chez toi avec ton contenu. Et moi, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai refusé d'aller sur cette radio-là. Parce que j'ai dit, bah, si je le fais chez eux en audio, vu que je sais faire de l'audio maintenant, je peux le faire chez moi. Ça va pas me... Alors, de temps en temps, je pourrais y aller pour essayer de me faire connaître. Et ça, c'est une autre démarche de visibilité, etc. Mais de là à y aller gratuitement toutes les semaines pour faire leurs séquences chez eux, j'ai dit quand même, faut pas pousser. Même si je trouve intéressant, tu vois, moi, j'ai fait, quand ils m'invitent, je vais les voir. C'est intéressant de voir comment ils travaillent pour s'inspirer, je trouve. Parce qu'il y a des et puis ils ont une facilité. Et il y a un truc qui m'a toujours marqué chez ceux qui font de la radio, c'est la notion de gestion du temps, qui est un truc exceptionnel. Une anecdote qu'on m'avait raconté, quelqu'un qui disait, il avait une minute avant de prendre un train, il a pris son café pour arriver dans le train et trois secondes avant qu'il parte. Et oui, mais parce que c'est l'habitude de faire des flash infos depuis 10 ou 15 ans et de tomber sur... Et moi, tu vois, qui arrive à faire des épisodes d'1h15, alors je me suis dit, je vais faire 20 minutes au départ, je trouve ça mais fabuleux que les gars, en fait, sans avoir l'horloge sous les yeux ni rien, au bout d'un moment, ils ont la notion du temps. Et ça, c'est des formats qui sont millimétrés aussi, qui sont comme ça. Et sur le web, c'est vrai qu'on a une grande liberté, dont des fois on abuse. Alors, il y a eu un débat il y a pas longtemps chez les Américains. J'en ai parlé avec Thibaut, d'ailleurs. Je crois que c'est Marco Arment et d'autres qui ont fait un épisode qui durait 3 heures, un truc comme ça. Et quelqu'un leur a dit, mais c'est trop long votre truc, et il a dit, bah écoute, c'est le temps que nous on a jugé nécessaire pour traiter d'un sujet. Et peut-être qu'un jour on peut tomber sur des sujets qui ont besoin de plus. De même que moi, je vois que traiter certains sujets en 7 minutes, des fois,
c'est pas dans la case, quoi.
C'est un peu short, hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça. On en parlait un petit peu d'ailleurs du côté financier. On parlait du financement Patreon, Tipeee, etc., qui sont finalement des modes de financement alternatifs pour l'instant, mais qui prennent quand même, hein, chez le public, hein, qui trouvent, une partie en tout cas du public trouve que c'est un format intéressant.
Ouais, 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 ça, c'est très évident. Là encore une fois, moi je l'ai vu arriver avec ce qu'a mis en place Patrick Béjart, ce qui lui a permis de totalement vivre de ses podcasts. Bon, je sais pas si c'est nécessaire de vraiment rentrer dans les détails pour les gens qui nous écoutent, mais l'idée elle est assez simple, c'est de dire que le contenu qui vous est mis à disposition gratuitement, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de participer à la hauteur de ce que vous voulez, avec toujours cette idée de petites sommes qui au final peuvent représenter quelque chose d'important pour le créateur de contenu. C'est un peu l'image du groupe de musique que vous allez voir sur la place en centre-ville qui joue, et il y a le chapeau de temps en temps qui est distribué auprès de toutes les personnes qui écoutent, et puis ben, il y a une partie de ces gens-là qui mettent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils estiment être, enfin ce qu'ils estiment valoir par rapport à ce qu'ils viennent d'écouter. Bah, c'est vraiment la même démarche par rapport à ces plateformes de financement participatif régulier que tu as cité, Patreon et Tipeee. Moi, de mon côté, ça répond à quelque chose d'assez idéal dans ma situation. Au-delà d'une certaine audience, on estime que c'est à peu près en moyenne, hein, c'est 0,3%, enfin je sais plus quels sont les chiffres en moyenne, mais 0,3% d'une audience qui va être amenée à passer le pas de participer. Donc je trouve qu'il faut quand même un certain volume pour arriver à avoir quelque chose de conséquent. Après, des petites sommes peuvent aussi beaucoup aider une activité qu'on peut avoir en secondaire, hein, quand on a une petite passion, typiquement on parlait tout à l'heure de sport, si jamais on veut financer un peu d'équipement, un bon micro, un matériel pour faire le montage, ça peut être de bonnes solutions. Moi, dans mon cas, alors je donne des aspects un peu perso de ma vie, mais qui sur lesquels je reviendrai d'ailleurs. J'ai ma conjointe qui a pas eu la possibilité de travailler pendant très longtemps, plus par souci de santé que par difficulté d'accéder à un certain emploi, on s'est retrouvé dans une situation où typiquement toute la vie de famille reposait uniquement sur mon salaire, et j'avoue qu'il y avait des fins de mois compliquées. Alors j'étais pas du tout à la rue, on aurait pu faire beaucoup plus de sacrifices que ce qu'on a fait, parce que mon salaire m'a toujours permis de vivre correctement, mais j'avais quand même des petits signaux d'alerte. Et on avait initialement mis en place le financement participatif de Tech Café au travers d'une association. C'était justement avec Cédric Tamboise, on avait pris la décision de financer une association pour créer une émulsion positive autour du podcast, récupérer des fonds pour notamment financer du matériel. Mais on avait vite vu que le matériel serait vite financé avec les contributions qu'on recevait tous les mois. On avait eu l'idée d'ailleurs de réinjecter les sommes qu'on avait en trop au travers de dotations qu'on ferait gagner, mais finalement, le sens n'y était plus, quoi. Cette espèce de mouvement simple des gens qui participent simplement pour te remercier et pour contribuer à leur manière au fonctionnement d'un podcast, et notamment pour te rémunérer pour un travail que tu fais, on le perdait avec ce fonctionnement-là. Raison pour laquelle on a fonctionné différemment, et j'ai créé une auto-entreprise pour récupérer ces fonds. Et j'avoue que pour mon fonctionnement au niveau du foyer, ça a changé ma vie. Donc c'est un truc sur lequel je voulais revenir de manière un peu plus détaillée, sur lequel je reviendrai de manière un petit peu plus détaillée. Mais on accède à un environnement où la technologie et la production de contenu permettent très concrètement de changer la vie de quelqu'un avec ces plateformes, sans que l'impact ne soit très très fort pour les personnes qui participent. Il y a d'autres effets de bord très positifs qui sont générés par ça. J'avais discuté avec quelqu'un qui a fait un podcast, qui avait Pignon sur rue, qui ne l'anime plus maintenant, qui me disait en toute transparence, moi j'ai pas de besoin financier, je gagne très très bien ma vie, le podcast c'est vraiment du plaisir, j'ai pas besoin de financement participatif. J'en ferai pas pour le contenu que je diffuse. Par contre, si je le faisais, ce serait peut-être pour créer de l'audience. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça qui se met en place, c'est qu'on a le financement participatif qui, au-delà d'être des mécaniques qui permettent d'engranger des finances, c'est aussi des moyens de créer de l'audience et de se faire connaître. Et d'ailleurs, ça pourrait être une des réponses à la question que tu posais tout à l'heure. Quelles sont les techniques quand on lance un podcast? Ça peut être aussi une technique de se dire, je n'attends pas d'avoir une audience pour générer un financement participatif, mais je crée mon financement participatif en même temps que mon podcast, parce que c'est une manière de le faire connaître. Et il y a aussi cet effet de boom au départ, de grosses caisses de résonance quand on lance un podcast ou quand on lance autre chose d'ailleurs, qui peut être intéressante. Un dernier effet de bord, pour pas qu'on fasse un épisode quand même de 3 heures, un dernier effet de bord que je vois hyper important à ce type de financement participatif, c'est que j'ai une des personnes qui contribue au financement de Tech Café, qui contribue sur une grosse somme. Enfin, pour moi, c'est une grosse somme. Pour lui, c'est une somme, pour la petite anecdote, qu'il a réinjectée dans le podcast pour me soutenir, pour nous soutenir dans le travail qu'on fait, parce qu'il avait arrêté de fumer et qu'une des motivations qu'il avait, c'était de dire l'argent que je mettais dans le tabac chaque mois, ben, je vais le mettre dans le financement participatif de Tech Café, qui m'apporte une veille, comme tu le décrivais tout à l'heure, qui me permet de passer un bon moment et qui me permet de réfléchir à un certain nombre de choses. Et moi, de mon côté, le fait d'avoir cette personne qui, un peu comme un actionnaire, hein, je trouve, détient une partie du podcast, fait qu'il me challenge beaucoup. Il peut être amené à m'apporter un regard critique que j'écoute très attentivement sur les choses que je fais. Parfois, on n'est pas d'accord et parfois, je prends absolument pas en compte ce qu'il me dit, mais à chaque fois, je l'écoute et très souvent, ça me fait réfléchir. Et typiquement, le format radiophonique du début là de Tech Café que j'essaye de faire évoluer, c'est aussi avec son impulsion et avec ses remarques. Et je trouve que ça a des effets très, très positifs. Je vois pas quel autre modèle pourrait remplacer ces effets positifs, quoi.
Ouais, effectivement, c'est un cas très intéressant. Et alors, ce que tu disais sur le financement participatif pour se faire connaître, c'est comme ça qu'on utilise notamment les plateformes type Ulule et compagnie, puisque ça permet de toucher, quand ça marche, d'autres personnes par le biais de recommandations, par le biais des plateformes de la visibilité. D'ailleurs, il y a des podcasts qui viennent de boucler du financement. Hein, je pense au podcast de Louis Média. Je suis pas certain qu'ils aient besoin de ce financement-là, j'avoue. Ou en tout cas, les sommes annoncées par rapport à ce qu'elles veulent faire. Moi, j'étais... Soit je me disais, tiens, ils ont besoin de beaucoup d'argent pour faire ça. Ou alors, ça permet aussi de maintenir la... Bah, de trouver des premiers auditeurs, en fait, puisque si tu trouves 500 ou 600 personnes qui donnent chacun 1, 2, 3 euros, et même plus, parce qu'elles sont montées à plus de 25 000 euros hein, au total, et ben forcément, les personnes, tu as leur contact, Ulule t'envoie les mails, tu peux les mettre dans nos newsletters, tu vas les prévenir, tu vas les avoir des premiers auditeurs, etc. Et si tu arrives à avoir, dès le départ, 1000 ou 2000 auditeurs comme ça, acquis, ne serait simple fait sur les premiers épisodes, je pense que dans les classements de podcasts, la visibilité d'un coup doit bien exploser sur les classements, etc. Donc c'est aussi une stratégie hein, de visibilité qui demande un boulot dingue hein, sur Ulule, etc. Nous on l'a testé avec ma femme sur le thé et j'ai testé avec d'autres clients. Ça demande un vrai gros boulot qui a un défaut quand même, c'est qu'on est sur un financement en one shot. Alors que c'est vrai que Patreon, Tipeee, on est sur du régulier et il y a pas à dire, hein, ça instaure pas la même relation non plus. C'est pas la même dynamique, c'est pas les mêmes contacts, etc. Et ça apporte autre chose. C'est encore différent et c'est complémentaire. On a fait un sacré tour. Hein, alors mon temps d'enregistrement est totalement foireux chez moi, donc je ne sais pas combien de temps nous en sommes. Pour vous raconter les cuisines des uns et des autres, on a eu chacun de notre porte qui a fait un toc-toc parce que quelqu'un est venu nous voir. Moi j'ai mon téléphone qui s'est mis à vibrer et tu vois j'ai dit je n'ai pas de notification. Et ben j'ai quand même une notification qui est apparue qui me dit il faut boire un coup. Voilà. Pourtant, j'ai vidé mon petit litron. Voilà, comme quoi, on reste toujours dans les domaines de l'amélioration, développement personnel. Et un jour, je pense que je ferai un épisode de votre coach web sur. Il est important de boire quand on fait du contenu, parce que franchement, ça s'entend quand on oublie de boire, ou en tout cas, on tient pas le choc quand on fait du contenu, quand on fait des longues émissions, quand on fait de la vidéo, etc. Buvez ce que vous voulez, mais moi je recommande que de l'eau. Que dire d'autre à part où est-ce qu'on... T'as des projets ?
Ah oui, j'ai des projets. Au fil de l'eau, là, tout à l'heure, on parlait de réflexions que je menais sur Tech Café. Je suis à peu près persuadé qu'il y a des petites choses qui changeront d'ici la rentrée. En étant complètement transparent, je trouve que le fait de recevoir des financements pour produire un contenu qui me passionne me plaît de plus en plus. Si cette part de mes revenus mensuels pouvait être de plus en plus importante, j'en serais ravi. Et donc, je réfléchis à des choses qui pourrait venir soit en complément, soit même de manière préférable en remplacement de ce contenu qui est pas evergreen. J'en serais ravi. Il y a évidemment rien de réfléchi. J'aime beaucoup raconter des histoires et voilà, j'aimerais bien travailler là-dessus évidemment.
Un truc qu'on n'a pas dit, parce que je pense que c'est quand même important. T'as lancé tes cafés il y a combien de temps?
Bah, c'est une excellente question. Comme je te disais, j'ai une mémoire de merde, donc je peux essayer de regarder vite fait si jamais.
Non, mais à vue de, à peu près à vue de, à vue de nez, j'ai envie de dire. C'est un rappel qui est important, c'est parce que on voit les sommes hein, qui sont pas négligeables chez toi. On parle de Patrick Béja, des sommes qui sont collectées. Il faut pas oublier quand même que c'est une audience qui s'est fait sur des années. Et c'est vrai que pour les gens qui débutent, ils disent voilà, mais ça paraît inaccessible d'avoir ces sommes-là. Mais c'est vrai que l'audience se construit aussi dans le temps. Et pour ça, je trouve intéressant. Si t'as une idée à peu près hein, de depuis combien de temps finalement les gens t'écoutent.
Alors, ce qui est sûr, c'est que Tablette Café, ça fait depuis 2014, donc ça fait 4 ans maintenant. Mais je vais prendre le temps promis de regarder d'ici quelques secondes la date de diffusion, et à moins que vous l'ayez déjà trouvé, si jamais vous avez un navigateur entre les mains, mais la date de diffusion du premier épisode de Tablette Tactile, mais je crois que c'était il y a peut-être 8 ans. J'ai dit peut-être une bêtise, ouais. Hein, mais c'était il y a à peu près 8 ans.
Non, mais ça confirme un peu. Tu vois, ça confirme vraiment. Et c'est un vrai truc hein, que je dis souvent. La création de contenu, c'est une vision de long terme. Et qu'on parle de ces projets, de ces choses qui se construisent, etc. Tu nous as bien expliqué, bien montré que les choses se sont faites au fur et à mesure, que on n'a pas l'audience que tu as actuellement sur tes podcasts du premier coup, qu'on n'a pas non plus ce réseau, que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et qu'il faut pousser les portes et aussi persévérer et s'accrocher et en faire régulièrement. Voilà, c'est ma conclusion personnelle. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors bien sûr, on l'a dit, mais de préférence, on va essayer d'en donner un ou deux endroits où on te retrouve et on retrouvera le reste.
Alors le mieux, je pense, l'effet un peu hub, ça va être mon site perso, c'est guillaumevendée.fr. J'ai réussi à passer le pas de ne plus avoir mon extension en .mi là, qui n'avait pas de sens. j'ai fait une migration. De toute façon, si vous tapez guillaumevendée.com ou .fr, vous arrivez au même endroit. C'est mon blog perso où je diffuse du contenu, où je vous propose de vous abonner à ma newsletter, où je vous propose de me suivre sur les réseaux sociaux et où il y a des liens vers les podcasts que je produis et même on peut écouter des épisodes directement sur cette page. Je pense que c'est le meilleur endroit où on peut inviter les gens à venir en savoir un peu plus sur moi, en tout cas.
Parfait. Bah merci Guillaume. Un petit mot de conclusion à rajouter ou?
Bah non. Oui, pardon. Mot de conclusion parce que j'ai pris vachement de plaisir à faire cet épisode, à parler un petit peu de tout ça et à être dans la position de l'invité, ce qui est toujours hyper agréable quand on fait du contenu et qu'on l'anime, qu'on est justement dans ce rôle de réalisateur de contenu quand on est invité. Je trouve ça toujours à la fois hyper valorisant et très agréable. Donc c'est toujours un grand plaisir et merci beaucoup Bertrand. Et puis je te remercie devant toutes les personnes qui t'écoutent. Parce que très concrètement, votre coach web représente ces sources de motivation que je peux avoir, que ce soit pour mes podcasts, mais même de manière générale et même un peu à titre personnel, je recommande ce podcast. Et donc ça me fait encore une fois, comme je le disais en intro, extrêmement plaisir d'avoir pu apporter ma petite pierre à cet édifice.
Eh ben, merci beaucoup à toi pour cet petit message sympathique, pour ton temps passé, pour tes conseils, pour ton sourire. Et je leur dis, hein, je ferai un épisode sur la marque personnelle et sur ce qu'on ressent de la marque personnelle. La marque personnelle, c'est pas un logo, c'est pas un nom, c'est pas un nom de domaine, c'est pas... Je vais pas faire l'épisode de demain en avance, hein, mais je le dis très clairement, c'est pas tout ça, c'est pas des adresses de sites ou quoi que ce soit. C'est aussi ce qu'on en retient. Et ce qu'on en retient, ben c'est le sourire, c'est la bienveillance, c'est... je l'avais pas dit, hein, mais j'avais entendu des gens dire que c'est toi qui leur a fait leur logo pour leur podcast ou des choses comme ça, etc. Et ben c'est aussi ça, vous voyez, la construction de la marque, et c'est pour ça que ça me faisait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Pour conclure, bah bien sûr, moi je vous dis à demain pour un autre épisode qui sera, oui, je vous le dis, beaucoup plus court, parce que bien sûr les autres jours je pars sur des formats de 7 minutes, et je trouve que 7 minutes c'est un format qui est à la fois très long et très court, et c'est très curieux, c'est mon petit jeu. On approche tout près du 200e épisode. J'ai lancé une invitation pour un 200e épisode, j'espère avoir mon invité. Voilà, donc je vous en dirai pas plus, mais de toute façon ça va arriver tellement vite maintenant, parce qu'en faisant du quotidien ça va arriver super vite. On se retrouve bien sûr sur mon site votrecoachweb.com/193 pour les notes de l'épisode. Je sais pas ce que je mettrai dans les notes parce que il y a trop de choses. Je mettrai les liens en tout cas vers ton site. Je mettrai les liens vers 2-3 outils, hein, Feedbin, Feeder et compagnie qu'on a cité tout à l'heure. Google Docs, je pense que c'est pas la peine, tout le monde connaît. Je mettrai un lien vers Call Recorder. Non, mais c'est bien de voir aussi que des fois il y a pas besoin d'avoir des outils extraordinaires pour produire des choses. Et bien sûr, on se retrouve aussi sur le forum club.votrecoachweb.com, hein, ce qui est le forum qui est lié à tous les sujets, et aussi sur Patreon, parce que moi j'ai aussi un Patreon qui permet de payer notamment l'hébergement du podcast tous les mois, même si je ne gagne pas avec mon Patreon autant que Guillaume, mais moi je commence juste, hein, voilà, je commence juste, et petit à petit, comme on disait, les petites pierres qui s'ajoutent font des gros tas. Voilà, sur ce, c'est la conclusion de cet épisode. Je te dis à très bientôt, Guillaume, et je vous souhaite à tous une très très belle journée.
Ciao, 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 ciao les créateurs.
Ah, parfait.